Salut à toutes et à tous, vendredi matin, 11h, c'est live. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte, hein, qui tous les mois double son nombre d'abonnés. Nous sommes déjà à 24 000 et quelques, nous devons être ce soir-là à 25 000 minimum. Alors aujourd'hui, je reçois Bertrand Scheuler. Bertrand Scheuler, vous le connaissez, il est partout. Il est sur Sud Radio, il est sur Radio Courtoisie, il est chez tout le monde. Vous le voyez partout, c'est le gars qui monte lui aussi. Donc entre la chaîne qui monte et l'intervenant qui monte, eh bien, il fallait qu'on fasse une interview. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Nord Stream, voilà l'explosion de Nord Stream. On en a beaucoup parlé, certes, dans les médias, mais pas assez en profondeur. Et donc, du coup, Géopolitique Profonde, hein, on en parle en profondeur parce que vous devez tout savoir. L'explosion de Nord Stream, c'est quand même pas n'importe quel type d'info. C'est peut-être quelque chose qui va impacter notre avenir à tous. Bonjour, cher patron, comment ça va?
Bonjour Mike, bah, écoute, ça va très bien et je suis ravi de te retrouver pour parler effectivement de ce qui s'est passé avec Nord Stream, de ce qui est en train de se passer avec Nord Stream et de ce qui va se passer suite à Nord Stream, au sabotage des Nord Stream, puisqu'il y a plusieurs Nord Stream.
Oui, parce que, on en parle un peu dans les médias en disant voilà qu'il y a eu sabotage, mais on n'explique pas en fait les conséquences sur l'Europe de ces sabotages.
Non. Alors déjà, je voudrais juste dire quelque chose parce que ça va surprendre toutes les personnes qui nous écoutent. On a vu des images des flux de gaz qui s'échappaient en fait. Donc il y a eu quelques images. Il se trouve que les explosions, les sabotages ont eu lieu à moins de 100 mètres de profondeur dans une zone très surveillée. Et on n'a aucune image des dégâts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public, le monde entier qui s'interroge, il va y avoir des conséquences terribles. Nous n'avons pas d'image. C'est-à-dire qu'on a des images...
Alors, qu'est-ce que c'est cette photo, du coup ? C'est quoi cette photo que l'on voit un peu partout, exactement ?
Ah, mais ça, c'est la photo des conséquences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du gaz qui s'échappe et c'est un peu comme un volcan de méthane qui s'échappe par les trous, puisqu'en fait, il y a au moins 4 trous dans les différents Nord Stream, et des trous dont on n'a pas véritablement une idée précise de la taille. Donc, on sait que ce sont des trous importants. On sait qu'ils ont été placés de façon chirurgicale par rapport au pont, par rapport au niveau de la mer. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que très peu de personnes auraient pu faire de tels trous. Il faut imaginer que les tuyaux font 4 cm d'épaisseur d'acier. Donc, je ne sais pas si les personnes imaginent 4 cm d'épaisseur d'acier. Même un sous-marin atomique, même un bateau porte-avions, même un char, rien n'a une épaisseur de 4 cm d'acier. Et au-delà de ces 4 cm d'acier, tu as 15 cm de béton armé. Et comme le béton armé et l'acier n'ont pas les mêmes propriétés face à des explosifs, et surtout des nombreux tronçons étaient complètement enterrés, on sait que ce sont des armes très particulières. Donc les sismologues, enfin les grandes oreilles, ont évoqué plusieurs, l'équivalent de chaque explosion, de plusieurs centaines de kilos de TNT. Donc c'est considérable.
Alors d'abord, on va commencer par le début. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que globalement, les gens ne savaient pas ce qu'était Nord Stream. Voilà. Donc, expliquons d'abord ce que sont les Nord Stream. Parce que voilà, les gens qui nous regardent peut-être ne sont pas forcément au courant. Ils savent qu'il y a une explosion, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est.
Alors, peut-être on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc, historiquement, pour se chauffer, pour fabriquer de l'électricité, etc., on utilisait principalement du charbon. Et petit à petit, on a utilisé du gaz parce qu'on a trouvé des moyens de faire venir le gaz de là où il était produit, c'est-à-dire principalement en Russie, en Sibérie, avec des gazoducs. Mais ces gazoducs traversaient la Pologne, l'Ukraine, et y compris pendant la guerre froide, ces gazoducs alimentaient l'Europe. Donc, évidemment, l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, puis l'Allemagne de l'Ouest, et même au pire de la guerre froide, ça continuait à fonctionner. Mais avec l'OTAN qui s'est étendue vers l'Est, chaque pays s'est mis à devenir de plus en plus gourmand pour laisser passer du gaz russe vers l'Europe. Et par ailleurs, les Américains ont découvert des mannes incroyables de gaz de schiste aux États-Unis, dont eux, évidemment, n'ont pas tous les besoins, puisqu'ils ont beaucoup de centrales nucléaires, ils ont beaucoup de pétrole, ils ont du gaz normal, ils ont le Golfe du Mexique, Louisiane, etc., etc. Et donc, ils avaient besoin, petit à petit, de trouver des débouchés. Et donc, ils voyaient d'un très mauvais œil le développement des Nord Stream et surtout la dépendance forte des Allemands, puisque les Verts allemands avaient d'abord ciblé évidemment le nucléaire et le charbon, et ils n'avaient pas regardé d'un mauvais œil les différents Nord Stream. Donc il y avait un premier Nord Stream qui avait été mis en fonctionnement au début des années 2000, 55 milliards de mètres cubes par an, donc ça vous donne une idée des proportions, sachant que les besoins dans toute l'Europe sont évalués en gaz à l'horizon 2030, sauf changement, à 150 milliards.
Toi, tu es ingénieur, ouais. Donc voilà, tu parles de quelque chose dont tu connais. Le gaz, ce n'est pas que pour se chauffer, en fait. Non. Pour les gens qui ne savent pas, hein, je dis bien.
Alors, le gaz, effectivement, chacun imagine son chauffe-eau à gaz, son four à gaz, ses plaques au gaz, etc. Ça, c'est une toute petite partie de l'utilisation privée du gaz, c'est une petite partie de cette utilisation. En revanche, il y a beaucoup de chauffage collectif pour des piscines, pour des villes, donc chauffage urbain qui est au gaz. Là, on a déjà une plus grande partie, mais l'essentiel, c'est l'industrie lourde qui utilise énormément de gaz puisqu'elle n'utilise plus de charbon pour chauffer dans la sidérurgie, dans tous ces domaines-là. Mais essentiellement, les centrales électriques au gaz, hein, c'est-à-dire pour fabriquer de l'électricité, on a des centrales à charbon, des centrales qui utilisent le pétrole, des centrales qui utilisent le gaz et les centrales nucléaires. Puisque 95% de l'électricité qu'on utilise, elle vient évidemment pas des éoliennes, elle vient de ces centrales électriques et des barrages. Puisque en revanche, l'eau, c'est un bon moyen de faire de l'électricité partout dans le monde. On voit en Égypte, à Assouan, en France, il y a beaucoup d'endroits où on fabrique l'électricité comme ça. Mais en Allemagne, l'électricité, elle était grandement fabriquée au gaz. Et d'ailleurs, on voit que les Allemands maintenant se précipitent pour réouvrir leurs centrales à charbon. Et ils annoncent, et de nouveau avec les écologistes finalement qui acceptent, de doubler la production à très court terme, puisqu'ils avaient encore beaucoup de centrales à charbon, ils doublent ça de leurs centrales à charbon. Il faut savoir que l'Allemagne est dépendante à 40% du gaz russe à aujourd'hui. Et que Nord Stream,
elle est dépendante effectivement, pour quoi elle est dépendante pas pour que pour se chauffer, mais aussi pour
l'Allemagne avait un nucléaire civil qui était correct, mais très peu suffisant. Et ils n'ont plus que 3 centrales nucléaires aujourd'hui, les Allemands. Donc, ils ont besoin de produire de l'électricité différemment. Je t'ai perdu, Mike.
Est-ce que tu m'entends pas ? Mais oui, je suis là.
Allô ?
Est-ce que tu me vois ? Bertrand ? Est-ce que tu me vois ? Bertrand ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là ? On a perdu Bertrand. Est-ce que vous me voyez ? N'hésitez pas à me répondre, s'il vous plaît. Bah, non, moi, je t'entends. Attendez. Bah, sors ! Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Attendez, je vais sortir.
Allô ? Allô, allô ?
Bertrand ?
Est-ce que tu m'entends ? Ouais, je t'entends.
Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, moi, je te voyais, je t'entendais.
Bah, je t'entendais plus. Donc, donc, les Allemands sont très dépendants du gaz russe qui continue à arriver en Europe. un tout petit peu par l'Ukraine, mais la plupart des gazoducs qui passent par l'Ukraine ont été fermés. Un petit peu encore, mais combien de temps par la Pologne? Et très largement, ça arrive par la mer Noire et ça passe par la Turquie. Mais ce gazoduc qui passe par la Turquie est sous le coup des sanctions et un peu comme Nord Stream, il va plus pouvoir être entretenu, il va plus pouvoir être assuré et donc il risque d'être incessamment coupé pour les raisons des sanctions. Et alors là, il y aura véritablement plus de gaz. Donc les Russes disent, si on peut accéder au gazoduc, si on peut faire des réparations, si on peut rediriger Nord Stream, il y a peut-être un tronçon de Nord Stream 2 qu'on pourrait reconnecter au réseau existant pour continuer à apporter du gaz à l'Europe. Mais alors, personne ne sait dans quel délai. Ils disent que ça pourrait être fait rapidement. Là, je ne peux pas dire, si tu veux, tout le monde se pose la question. Mais à partir du moment où les Russes n'ont pas accès ni l'entreprise Nord Stream AG aux dégâts, je ne vois pas comment ils pourraient rebrancher le tuyau, le rediriger.
Est-ce que ce gaz ne profite en réalité qu'aux Allemands ou est-ce que l'Europe dans son ensemble utilise ce gaz russe ?
En fait, c'est même pas comme ça qu'il faut se poser la question. L'Allemagne est dépendante à 40% du gaz russe. Ça veut dire que toute l'économie, toute l'industrie allemande ne peut fonctionner parce qu'elle avait accès à ce gaz pas cher. Donc, si l'Allemagne doit maintenant payer un gaz beaucoup plus cher, puisqu'en fait, ils avaient des contrats à long terme avec Nord Stream pour avoir des prix avantageux, enfin avec Gazprom, donc avec Nord Stream pour avoir des prix avantageux, c'est toute l'industrie allemande qui s'écroule. Et si l'industrie allemande s'écroule, l'Allemagne s'écroule. Et si l'Allemagne s'écroule, il n'y a plus d'Union européenne. Puisqu'en fait, la locomotive de l'Union européenne, le pays puissant internationalement, le pays qui permet finalement à l'Union européenne d'avoir une puissance exportatrice mondiale, c'est l'Allemagne et uniquement l'Allemagne.
Oui, mais est-ce que ça peut ne pas être une chance pour la France, comme l'explique l'ami Patrick Hébry, que justement l'Allemagne s'écroule et que nous, la France, nous reprenions le leadership sur l'Europe ?
Mais non, mais
ça, c'est pas possible.
Mais Patrick Hébry, je pense qu'il n'a pas fait une analyse complète de la situation. On voit bien qu'en France, on a un tissu industriel qui est maigrelé, même dans l'agroalimentaire, qui est notre secteur principal. De plus en plus de choses, on a vu ça avec la moutarde, sont produites à l'international. C'est-à-dire que la moutarde de Dijon, elle est même plus faite en France. Et donc, on n'a pas d'industrie puissante, on n'a pas de sidérurgie efficace. On a une industrie automobile, mais la plupart des lignes de montage, elles avaient été déplacées dans des pays d'Europe de l'Est, on voit bien avec Dacia, etc. etc. Donc, on ne peut pas rebondir, puisqu'on ne peut pas proposer une alternative à ce qui va disparaître d'Allemagne. En revanche, on voit bien que les Américains sont très intéressés, puisque depuis que les chefs d'entreprise allemands comprennent qu'il va y avoir un écroulement, ils essaient de trouver des lieux pour se délocaliser. Et évidemment, les Américains sont tous là à proposer à ce que des lignes de montage de Porsche se déplacent aux États-Unis, des lignes de montage de Mercedes, etc. Donc, ils sont en train de faire leur marché. Il faut imaginer que nous, on regarde l'explosion, mais les gens qui ont créé l'explosion, ils ont anticipé en disant, ben voilà, il va y avoir un effet domino en cascade sur toute l'économie européenne, c'est à nous d'en tirer profit. Je te rappelle que depuis des années, les Américains, donc Trump avait été très actif dans ce domaine, veulent relocaliser beaucoup d'industries chez eux. Quel est le pays le plus industriel au monde d'où il est relativement facile de relocaliser des choses ? C'est l'Allemagne. Et donc, on se rend compte que pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années, le changement majeur, c'est un appauvrissement complet de l'Union européenne, complet. Le seul pays qui va tirer son épingle du jeu dans ça, enfin les seuls pays, c'est les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie qui a un maillage d'énormément de PME, de sociétés extrêmement flexibles qui ne sont pas des géants. Et l'avantage, là, dans cette période, c'est vraiment le « small is beautiful ». Et les pays comme l'Espagne ou le Portugal qui ont des contrats à long terme pour se procurer en gaz depuis l'Afrique. Et on remarque d'ailleurs, quand tu prends les prix du kilowattheure d'électricité, c'est qu'il est 5 fois inférieur en Espagne et au Portugal. Et ça va être un avantage compétitif pour ces pays qui est considérable.
Oui, mais la France, elle ne peut pas se dire « Oh là là, l'Allemagne va tomber ». Donc nous allons réinvestir dans une industrie, ça, on ne peut pas le faire ?
Non, parce que c'est long. Pour réinvestir dans une industrie, il faudrait que les industriels aient envie de relocaliser chez nous. On voit bien, de temps en temps, on a réussi à avoir une usine d'embouteillage de bouteilles Coca-Cola pour toute l'Europe, parce qu'on a promis de raser gratis, des petits impôts sur les bénéfices, des charges sociales amoindries, l'eau gratos, etc., etc. Donc, pour essayer d'avoir des emplois et des revenus. Mais tout ça ne fonctionne pas. On n'a plus une main-d'œuvre en France qui a envie de travailler dans l'industrie. Les gens n'ont plus envie de travailler dans les travaux publics. On a cet énorme problème en France d'avoir un chômage fort, mais toutes les offres d'emploi qui sont faites dans les différents secteurs ne sont pas prises. C'est-à-dire, tu demandes à un entrepreneur dans le bâtiment, il a un mal fou à trouver des employés. Parce que les gens ont pris l'habitude, avec les aides pendant les 2 dernières années, de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, d'aller me suer à porter des sacs de plâtre, etc. ou à travailler sur une chaîne de montage, alors que l'État peut me donner des indemnités tous les mois jusqu'à la fin de ma vie et des allocations pour la maison, etc. » C'est la limite du système de l'État peut tout pour vous. Alors qu'aux États-Unis, où tu as dans beaucoup de secteurs aucune protection, aucun salaire minimum, pour les industriels allemands, c'est d'une part un énorme marché et un Eldorado formidable, et ils ont déjà des usines là-bas. Et donc, déplacer des usines, s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions en Allemagne, ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Et le pouvoir politique allemand est en train de perdre énormément d'options. Donc, les Russes également seraient intéressés par des délocalisations d'usines allemandes. Ça pourrait arriver. Évidemment, les machines auront du mal à passer les frontières.
Donc pour en revenir à la France, parce que c'est quand même ça qui importe aussi, c'est d'ailleurs qu'on sera éternellement dans la merde, puisqu'on ne peut pas réindustrialiser, et que l'industrie, malgré un pays industrialisé, c'est un pays prospère. Un pays qui n'est plus industrialisé, c'est un pays qui est dans la merde.
Exactement. Donc, mais nous, si tu veux, on a encore en ce moment, et on le voit, des tas de sociétés qui ferment régulièrement. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire face aux charges sociales, elles ne peuvent pas faire face aux contraintes pour essayer d'être flexibles, etc. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer les choses. Parce que dans le même temps, il y a des groupes qui ont été extraordinairement subventionnés, qui continuent à être subventionnés, qui font des bénéfices énormes et qui distribuent ces bénéfices qui partent dans des fonds de pension à l'étranger pour payer les retraites d'autres personnes que les Français. D'où le fait qu'en France, on veut augmenter l'âge de la retraite, alors qu'en fait, tout est, si tu veux, personne n'a une compréhension microéconomique et macroéconomique de cette politique destructrice qui est menée depuis à peu près 12 ans, c'est-à-dire depuis que Hollande a été au pouvoir et qu'il a confié les rênes de l'économie à Macron, puis que Macron est devenu président, on sent bien que toute la politique de la France, elle est faite pour satisfaire le monde de la finance, le grand capital, et que l'ennemi, c'est le peuple. L'ennemi, c'est les gens qui ont envie de se lever tôt pour travailler, mais qui sont dégoûtés. Aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent, qui amènent leurs enfants à l'école, et dans les écoles, il y a des personnes qui viennent d'autres pays, des réfugiés, par exemple d'Ukraine, pour ne citer qu'eux, et qui touchent des allocations, qui touchent des indemnités, qui sont logés, qui sont chauffés, qui voyagent gratuitement. Mais tout ça, c'est déconcertant. Quand tu sais que non seulement tu offres plus de possibilités à ces personnes qui souvent n'ont pas connu la guerre, quand quelqu'un est véritablement réfugié parce qu'il était dans un théâtre d'opération de guerre, c'est normal d'aider les gens. Et je suis le premier à dire, il faut soutenir les gens qui ont reçu des bombes. Mais il se trouve que statistiquement, les gens qui étaient sur des théâtres de guerre, c'était dans la partie russophone et russophile, et l'essentiel est parti vers la Russie. Ceux qui ont quitté vers l'Europe, c'était beaucoup plus des gens qui ont quitté opportunément. Ils étaient inquiets, hein. Ils étaient inquiets de la situation économique du pays, mais ils étaient surtout alléchés par les propositions qui leur ont été faites. Ce que je veux dire, c'est qu'on se marche sur la tête pour avoir une communication qui est agréable, qui est sympathique avec les minorités, qui est sympathique avec les victimes et qui est en adéquation avec une stratégie suicidaire de nos gouvernements. On tue l'industrie, on démoralise les ménages, on dit aux personnes âgées qui étaient isolées pendant la période du coronavirus que maintenant elles doivent avoir froid dans les EHPAD. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire quand quelqu'un à 80 années, qu'il est faible, qu'il est dans une chambre où il n'a pas pu voir de monde, et maintenant on lui dit « tu vas avoir froid ». Des gens qui ont bossé toute leur vie, il n'y a pas de respect. Et maintenant on a une discussion sur « c'est merveilleux l'euthanasie ». Donc on nous dit « on va reculer l'âge de la retraite » et en même temps on nous parle d'euthanasie. Mais qu'est-ce que c'est cette société qui est incapable de respecter les personnes âgées ? Et tout ça c'est lié, c'est délirant. Les gens qui ont construit ce que nous sommes aujourd'hui, qui sont âgés, qui devraient être considérés comme importants pour nos sociétés, ce sont les quantités les plus négligeables. Mais c'est odieux, alors qu'ils ont servi à élire celui qui veut les détruire. C'est-à-dire que ces personnes âgées qui ont fait élire celui qui, en fait, a tout sauf l'intention de les rendre heureux, de les préserver, etc. Et d'ailleurs, ça, pour moi, c'est infiniment choquant.
Quand on parle de personnes âgées, moi je vais dire, je ne mets pas les boomers et les personnes âgées parce que ils sont seniors, mais ils ne sont pas âgés comme on pourrait le penser.
Non, et puis ils sont riches. Et puis ils sont riches.
En plus, ils sont riches. Moi je vais prendre les personnes âgées, c'est-à-dire celles qui sont nées avant-guerre, vraiment celles-là. Elles, je ne suis pas sûr qu'elles aient voté Macron, mais bon, enfin, ça pourrait voir les statistiques. Mais je remarque que celles nées avant-guerre, on en voit de moins en moins, enfin je veux dire on n'en voit plus, je ne dirais pas de moins en moins, on n'en voit plus dans la rue.
Exactement.
On les a tellement isolés qu'on ne les voit plus. Celle-là, il y a eu une vraie razzia pour le coup.
Exactement. Mais tu sais, je vais te raconter une anecdote. Mais ce n'est pas une anecdote puisque ça me concerne en premier chef. J'ai la chance d'avoir une mère qui est jeune puisqu'elle a 73 ans. Donc, elle m'a eu jeune. Ma mère, quand le confinement a commencé, elle fait plusieurs kilomètres de marche tous les jours. Elle a un petit chien et elle marche. Et elle lit beaucoup pour se maintenir en santé intellectuellement et physiquement. Mais quand ma mère s'est retrouvée confinée, c'était un désastre. C'est-à-dire que physiquement, tout s'est dégradé. Elle avait des échanges qui devenaient beaucoup plus limités, c'était par téléphone, mais elle croisait plus les gens dans la rue, elle croisait plus les gens dans les magasins. Mais ma mère, elle a 4 enfants, si tu veux, donc elle a pu réussir à se débrouiller, et dès qu'elle a pu s'éloigner de Paris, elle est partie s'installer à la campagne où elle pouvait relativement facilement sortir. Mais on a été dans un pays où les plages étaient interdites.
N'en parlons pas trop parce que voilà, YouTube, voilà. Même d'accord. Pas quand on parle de ce moment-là. En tout cas, voilà, on a compris que malheureusement, nos personnes âgées et les jeunes aussi ont été les grands sacrifiés.
Exactement, les jeunes.
De période.
Tu as raison, les jeunes étaient très importants.
Alors, du coup, voilà, on a ce Nord Stream qui alimente en gros l'Allemagne. L'Europe pouvait vivre sans, enfin, peut vivre aujourd'hui sans Nord Stream?
Non, absolument pas. Absolument pas. Elle peut vivre éventuellement sans Nord Stream si elle débranche son industrie, si elle fait des coupures de courant régulièrement pour tout le monde, si Linky coupe ton chauffe-eau régulièrement, si on t'interdit d'utiliser des lampes hautes que des lampes à basse consommation, etc., etc. Mais même si on fait tous ces efforts-là, tu remarques qu'il y a des villes qui ferment les piscines, qui ferment les patinoires, qui ne savent plus comment chauffer le mobilier urbain. Au cours des derniers jours, tu avais le maire d'une ville de 40 000 habitants qui disait…
Sur Marne.
Voilà, ma facture d'électricité elle va être multipliée par au minimum 15 et je ne sais pas où trouver l'argent. La facture d'énergie d'une ville comme Strasbourg va augmenter pendant les mois d'hiver de 2 millions d'euros par mois. Qui va payer ? Qui va payer ?
Dans ma commune de Saint-Ouen, le maire s'est gargarisé pour le coup parce que son gaz ne va augmenter que 2x5. Donc le mec était heureux, quoi.
Oui, mais il n'y a plus de gaz maintenant.
Il n'y a plus de gaz.
Mais il n'y a plus de gaz.
Tu as parlé de savoir. Litchi, et ça, je veux informer les gens.
C'est vraiment, je vais juste dire un truc avant. Mais aujourd'hui, tous les pays d'Europe avaient utilisé au maximum Nord Stream 1 tant qu'il est ouvert, avec ses 55 milliards de mètres cubes, pour regonfler tout leur stock. Puis, il y a eu, fin août, le problème, tu sais, avec les turbines, etc., où ils ont ralenti le débit. C'est passé à 30%, puis maintenant, il est complètement arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de pomper massivement dans les réserves. Et personne n'ose le dire dans les médias. Personne n'ose dire que ce gaz qu'on utilise comme des fous aujourd'hui, parce qu'il fait frais, parce qu'on a cette obligation, etc., il vient des réserves stratégiques. C'est-à-dire que les personnes se disent « Mais non, mais regarde, il ne se passe rien, Nord Stream est coupé. » Mais Nord Stream est coupé et il ne se passe rien parce qu'on utilise nos réserves. On utilise ce dont on a un besoin vital pour la période vraiment froide qui arrive et on n'a plus rien, on n'aura plus rien, on va être à poil parce que le mois de septembre a été tellement froid que dans toute l'Europe, alors qu'ils nous demandaient de faire des économies, la consommation d'énergie a augmenté de 15%. C'est-à-dire que alors que depuis des semaines, on nous disait mettez des cols roulés, faites attention et que beaucoup de gens ont fait considérablement attention, que les immeubles n'ont pas mis en marche les chauffages, alors qu'il faisait froid, que les EHPAD ont mis, on a malgré tout augmenté de 15% notre consommation électrique en Europe parce que cet hiver, il commence et il est froid. Ce matin, là où j'habite, il faisait 5 degrés. 5 degrés.
Donc là, sur Paris, il fait chaud, il fait quand même 20 degrés. Mais bon, mais tu as parlé tout à l'heure de Linky. Et moi, j'ai fait un tweet hier en disant voilà, que Linky allait couper les chauffe-eau. On nous disait à l'époque que Linky n'avait pas ce pouvoir. Évidemment, j'ai les fact-checkers qui sont revenus me voir malgré que Enedis m'ait répondu, m'a dit oui, mais bon, on fait ça parce que c'est pour économiser l'énergie. Confirmes-tu, oui ou non, que Linky peut à la main sur nos consommations d'énergie et que à distance, Linky peut couper l'électricité ou pas?
Linky peut tout faire à distance. Linky, c'est exactement…
Donc, ce n'est pas un truc de complotiste.
Non. Mais il faut savoir que les fils électriques, ils pourraient servir en même temps, il faut bien avoir ça en tête, à des communications Internet, à des communications téléphoniques et à l'électricité. C'est possible, c'est très simple. Donc, le compteur Linky, il sait exactement quel type d'appareil dans ta maison est en train de fonctionner. Et il serait capable, il peut couper, il peut diminuer le courant qui passe chez toi, etc. Évidemment, Linky, il n'est pas capable de débrancher exactement. Mais Linky, c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire que si tes chauffages sont en marche, il est capable de prévenir EDF. C'est-à-dire, si tu regardes ton tableau de bord avec EDF, donc le tableau de bord lié à Linky, ils te disent tout et comment tu as consommé ton énergie. Ils te disent, vous avez consommé avec des lampes non économiques, vous utilisez des chauffages électriques qui ne sont pas aux nouvelles normes, vous utilisez trop votre chauffe-eau, pas dans les conditions optimales, où il faut le remplacer, où il faut si. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te dire, tu es un utilisateur rouge du courant, tu es un utilisateur orange du courant ou tu es un utilisateur vert du courant. Et ça, ils peuvent le dire en temps réel. Et donc, ils peuvent te mettre des amendes. Et c'est là où on pourrait arriver à une espèce de passe énergie puisqu'en fait, tu vas être sanctionné. C'est-à-dire que peut-être, si tu utilises trop mal ton courant, on va baisser l'ampérage qui accède à ta maison, voire on va baisser les tensions en te disant, bah voilà, nous, chaque jour, on va passer des tranches dans lesquelles on fera circuler, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour l'image, que du 12 volts. Donc, vous pourrez utiliser que des lampes très basse énergie dans votre maison pour vous éclairer. Et pour le chauffage, bah, vous avez été très au-delà de votre quota, donc c'est fini. Et les bains, c'est fini. Maintenant, c'est des douches de 5 minutes. En fait, Linky, il peut dire exactement comment fonctionne quasiment pièce par pièce l'utilisation de l'électricité dans ta maison, mais de façon hyper simple. C'est vraiment c'est
ce très, très simple. Le législateur nous avait pas dit à l'époque où il devait placer les Linky dans les appartements des gens.
Oui, mais tu sais bien, c'est qui peut le plus peut le moins. Donc, au début, Linky, c'était juste pour éviter aux personnes d'aller relever leur compteur, puisque la formation allait être immédiatement connue par EDF grâce à Linky. Mais évidemment, ils n'ont pas investi autant d'argent, parce que je ne sais pas si tu imagines l'investissement. Évidemment, dans un immeuble, c'est plus facile. Tu changes tous les compteurs Linky en même temps chez tout le monde. Mais pour les personnes qui habitent dans les campagnes, ça veut dire un prestataire qui vient avec une voiture, etc. Toutes ces choses ne te sont pas facturées. Ça veut bien dire que d'une manière ou d'une autre, ça a un intérêt stratégique. Et ce n'est pas un intérêt stratégique pour les compagnies d'électricité. C'est forcément un intérêt stratégique pour quelqu'un. C'est pour ça que tout ce qu'on dit, malheureusement, toute cette espèce de faisceau de choses qui se passent depuis un certain nombre d'années et qui s'accélèrent, est lié. C'est forcément lié. Tu sais, c'est comme une partie d'un jeu de stratégique. Il y a trop de pions qui ont été mis en place par anticipation et qui se révèlent être capables de faire des choses très intéressantes. On voit bien que les lois qui passent dans pratiquement tous les pays du monde, bizarrement, elles anticipent les problèmes. Et comment les lois, elles peuvent anticiper de façon aussi fascinante des problèmes qui vont arriver que quelques mois après et où tout le monde a l'air surpris que ça arrive. C'est bien qu'il y a des gens qui savent. C'est bien qu'il y a des gens qui proposent ces lois-là et qui savent le déroulé de ce qui est en train de se passer.
Donc, ça veut dire que pour toi, c'est pas une incompétence. C'est un plan organisé.
Mais c'est une super compétence. C'est une super compétence. C'est-à-dire que tu as une maîtrise d'un calendrier de choses qui permettent d'avoir un contrôle de plus en plus fin, de plus en plus total sur la manière avec laquelle on a le droit de vivre et on a la possibilité de vivre. Et tout ça, c'est une course de vitesse. Et on se rend compte que c'est vraiment ça les deux dynamiques qui sont en train d'avoir lieu dans le monde. C'est-à-dire une dynamique de plus en plus coercitive. Alors parfois, c'est pour se protéger d'un ennemi de l'intérieur qui malheureusement peut exister de temps en temps. Et une dynamique qui est beaucoup moins coercitive, qui veut relibérer les gens de ce globalisme qui fait qu'il y a des groupes d'intérêts privés, parce que j'insiste là-dessus, les gouvernements ne sont plus réellement en maîtrise, les gouvernements sont devenus insignifiants par rapport à certaines puissances économiques privées considérables. Je ne vais pas citer le nom d'un certain nombre de personnes richissimes, mais Bill Gates, tous ces gens-là, et qui ont une influence considérable sur toutes les décisions qui sont prises, qui sont les mêmes personnes qui achètent massivement des terres agricoles, qui achètent massivement l'accès à l'eau, qui achètent massivement ce qui en réalité est vital. Parce que de quoi on a besoin pour vivre ? On a besoin d'un accès à l'air pur, qui est de plus en plus compliqué dans pas mal de régions du monde. On a besoin d'avoir accès à une eau potable, facilement et à des prix raisonnables, ce qui est de moins en moins souvent le cas. On voit bien aux États-Unis, tu as des villes dans lesquelles l'eau n'est pas potable depuis des années et des années. Ça crée des scandales considérables, mais parce que ça n'intéresse personne ce que boivent les gens. Et s'ils en meurent, ce n'est pas très grave. Si ça permet à d'autres industries de faire des économies ou d'accéder au gaz de roche-mer, donc le gaz de schiste qui va être vendu à prix d'or au monde entier parce qu'on n'accède plus au gaz russe. Et surtout, on a besoin d'accéder à l'énergie. Je pense que pour la première fois, les gens vont réaliser que se chauffer est un luxe. Mais on travaille pour quoi ? On travaille pour pouvoir respirer, pour pouvoir boire, pour pouvoir manger et pour pouvoir se chauffer quand on a froid. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de se chauffer librement. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le droit d'utiliser tel ou tel type de... Enfin, mais c'est délirant. Et on nous dit qu'on est des grandes démocraties, des pays de liberté, etc. Alors qu'on est de plus en plus surveillés et qu'on a de moins en moins de liberté. Tu ne peux pas choisir à quelle température tu vas te chauffer. Mais c'est surréaliste.
On peut revenir à Nord Stream. Voilà, on a des tuyaux Nord Stream qui sont théoriquement protégés par 4 cm d'acier et du béton. Comment est-ce que ça a pu sauter ? Quelle force a-t-on besoin pour faire justement sauter cette tuyauterie ?
Alors, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont été dans des commandos, etc., et qui me disent, pour faire péter 4 cm d'acier, mais qui sont par ailleurs recouverts par du béton, il faut ce qui s'appelle des charges creuses. Donc, c'est des bombes très spéciales qui ne sont pas du tout à disposition sur le marché. Parce qu'en plus,
ça se passe... Ni même le marché noir.
Ah si, maintenant, sur le marché noir, tu peux trouver tout. Tu peux acheter des tanks, tu peux acheter, tu peux acheter beaucoup de choses. Mais après, c'est difficile de les acheter sans être identifié par différents services secrets, etc. Parce que tout ça est très contrôlé. Enfin, je ne vais pas raconter, mais à la James Bond, mais quand quelqu'un sur le marché noir met en vente ces choses-là, évidemment, il est surveillé de près ou de loin par des agents doubles, des services secrets. Il a toujours peur de à qui il vend. C'est très, très compliqué. Mais là, il en fallait plusieurs, puisqu'il y a eu plusieurs explosions, à des grandes distances les unes des autres. Donc, ce n'est pas un même nageur ou un même sous-marin qui allait se balader et puis qui les a posés à ces endroits extrêmement stratégiques sur les gazoducs. Mais en plus, tout ça se passe dans la zone la plus surveillée du monde. C'est-à-dire que si ce sont des plongeurs, il faut juste imaginer un plongeur qui fait une plongée de plus de quelques secondes à 100 mètres. Tu vois, quand un mec, il va en apnée et qu'il remonte, il a quand même un certain nombre de paliers de décompression. Et après, ça peut être dangereux s'il ne respecte pas ces choses-là. Mais si tu restes un certain temps en profondeur, tu as besoin d'avoir des caissons de décompression. Et donc là, ça prend de la place, c'est très visible. Et si des groupes terroristes amènent des caissons de décompression là, ils vont être vus par tout le monde. Ils vont être vus par les satellites, etc. Tu ne peux pas prendre un bateau de pêche avec un caisson de décompression dans cette zone-là. Donc, ça ne peut être qu'une puissance qui avait des gros navires sur place, qui éventuellement avait des drones ou des petits sous-marins équipés et capables d'aller déposer ces bombes en toute sécurité, mais c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui me disent, en fait, les bombes ont pu être déposées à des endroits stratégiques par des sous-marins, et ensuite, ce sont des drones qui sont allés là-bas et qui ont été un peu des espèces de drones suicides pour faire exploser ces bombes à charge creuse qui étaient à ces endroits stratégiques. Donc, vraisemblablement, également dans les zones des soudures, puisque dans les zones des soudures, en fait, c'est moins bien protégé par ce fameux béton qui est évidemment là comme une couche de protection, mais qui était également là pour lester. Parce qu'il faut bien imaginer que ces tuyaux qui sont pleins de gaz, même s'ils sont très lourds à cause de l'acier, ils ont besoin d'avoir ce lest au fond pour vraiment éviter de se balader. Et souvent, c'est enterré. Mais ça ne peut être le fait que d'une très grande puissance internationale.
Et ça ne peut être ça peut être qu'un pays. Ça ne peut pas être une société ou un groupe terroriste ou genre un Al-Qaïda, des choses comme ça.
Mais c'est totalement impossible, puisque si ça avait été une société privée, elle aurait été observée par les Suédois, elle aurait été observée par les Danois. L'île à côté de laquelle c'est passé, c'est peut-être l'île la plus surveillée du monde. Il faut savoir que sur cette île, tout passe. L'électricité, donc les grands câbles d'électricité qui permettent en hiver à la Suède de recevoir de l'électricité du continent parce qu'ils en manquent. Le gazoduc qui fait Norvège et qui va vers la Pologne passe là. Les Nord Stream, des câbles Internet, d'autres câbles d'électricité, etc. Tout passe par là. Donc, c'est un endroit qui est vital pour la Suède, qui est vital pour plein d'économies. Et il se trouve d'ailleurs que c'est la première mer dans laquelle arrivent, dès qu'il y a des tensions avec la Russie, plein de sous-marins, plein de navires militaires, que c'est en permanence observé par des hélicoptères. Et tout le monde joue au chat et à la souris là-dedans. Mais pour les Russes, c'est extrêmement difficile de jouer au chat et à la souris parce que ce n'est pas très profond comme mer. C'est pas très vaste. Et de toute façon, pour en sortir, il n'y a que des tout petits détroits qui passent entre le Danemark et la Suède. Donc, pour rentrer dans cette mer, c'est difficile sans être observé par des pays qui font partie de l'OTAN, le Danemark, qui veulent faire partie de l'OTAN, la Suède et la Finlande, qui sont deux pays clés, et la Pologne, évidemment, qui est dedans. Donc, un groupe terroriste qui serait arrivé là, il aurait fallu que les terroristes y prennent la mer depuis un de ces pays. Donc, quand tu prends la mer équipée en Suède, etc., tu dois avoir un plan de navigation, tu ne peux pas te balader dans les eaux de la mer Baltique sans être particulièrement clair sur ton itinéraire. Mais c'est comme dans la Manche. Tu ne prends pas la mer dans la Manche si tu n'as pas fait, c'est comme pour un avion, un plan de vol détaillé. Donc, déjà, ça rend les choses difficiles. Ensuite, il faut que les types aient un équipement, donc caissons hyperbares, et des véhicules amphibies, hein, des espèces de... Et ce n'est pas les trucs que tu achètes chez Decathlon, tu sais, les petits trucs électriques avec des hélices qui te permettent d'aller te balader, parce qu'il faut que ce soit suffisamment costaud pour transformer des charges très, très spécifiques qui sont capables de faire une explosion équivalente à plusieurs centaines de kilos de TNT. Sachant qu'à part...
Donc, ça veut dire que les charges pèsent en elles-mêmes des centaines de kilos déjà.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que même, à part si c'était, même si c'était, imaginons, une petite bombe atomique, ce n'est pas le cas, hein, mais même si c'était ces petites bombes en thermite ou autre, etc., de toute façon, le mécanisme de mise à feu à distance, etc., c'est pas du tout comme ce qu'on voit à la télé, un petit réveil, tu remontes le réveil, tu dis voilà, dans 30 minutes ça va exploser, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, si tu veux. C'est des choses qui sont compliquées, qui prennent de la place.
Explique-nous justement pour que les gens puissent comprendre.
Mais pour percer 4 cm d'acier, oublions qu'il y a du béton autour. Juste pour percer 4 cm d'acier, tu ne mets pas un pain de plastique, tu vois, qui va faire exploser les choses. Quand tu vois les types qui essaient de braquer un coffre-fort de banque et qui vont, non, ils n'arrivent jamais. Et le coffre de banque, le métal, il ne fait pas 4 cm. Même les, tu sais, les barres d'acier qui permettent de le maintenir, si elles font 2-3 cm de diamètre, c'est le maximum. Là, tu as 4 cm d'épaisseur. C'est considérable sans aucune prise, hein, puisque t'es dans l'eau, en fait. C'est pas, tu vois, c'est. Et ça a été fait 4 fois, peut-être plus, dans une zone assez grande. C'est-à-dire que les explosions, c'est pas. À 15 mètres de distance. Les explosions, c'est éloigné et elles sont d'un côté et l'autre d'un des relais, donc d'une des pompes relais qui est située justement sur cette fameuse île. Donc, ça se passe à un endroit où, imaginons que les deux bombes aient eu lieu d'un côté ou de l'autre de cette île, en fait, il aurait été possible de sacrifier d'un côté ou l'autre Nord Stream. Et de juste remplacer un tronçon. Mais comme tu fais une explosion de chaque côté, en fait, tu perds les deux morceaux. Ça ne veut pas dire que tu perds tout le tuyau. Il est possible que des grandes quantités de tuyaux pourraient être réparables. Mais pour le réparer, il faudra avoir toutes les autorisations. Et déjà, en dehors d'une période de guerre, c'était extraordinairement difficile de construire. Mais réparer, c'est 10 fois plus compliqué que de construire. Parce que déjà, il faut pouvoir voir les dégâts, ce qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire les Russes n'ont pas le droit d'aller sur site. L'entreprise n'a pas le droit d'aller sur site. Ils n'ont pas le droit de faire partie d'une enquête.
Alors, on va en reparler, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'explosion. Donc, voilà, des centaines de kilos de TNT, Tu me dis aussi que ce coin-là est ultra surveillé. Est-ce que ça signifie qu'il y a des complicités internationales
Oui.
avec les gens qui ont fait sauter ce morceau?
Alors, c'est parfois tu fais semblant de pas comprendre ce que tu fais quand tu es en état. C'est-à-dire, on entend depuis quelque temps que la CIA aurait prévenu les Allemands qu'il y avait des risques d'attentats, etc., etc. Donc en fait, les États se disent, oh, s'il y a ce risque, ah ben, je vais débrancher mon câble électrique dans cette zone pour pas qu'il y ait de conséquences. Ou je... Donc, ils ne savent pas forcément qui va le faire, comment ça va se passer, mais ils vont avoir des informations. Et un peu, tu vois, c'est l'image de Ponce Pilate, je m'en lave les mains, je me doute bien que c'est lui qui va le faire, mais j'en ai pas l'intime conviction. Je vais quand même pas... dire que c'est mon allié le plus important ou le pays le plus important pour mon avenir, entre guillemets, qui est dans le coup. Donc, chacun va faire semblant de ne pas comprendre. Tu sais, c'est cette image des singes où il y en a un qui se cache les yeux, il y en a un qui se cache la bouche, il y en a un qui se cache les oreilles. Et voilà. Et puis là, maintenant, il devrait y en avoir un qui se cache les fesses parce que. C'est véritablement terrible. C'est-à-dire, oui, il y a des complicités passives qui ont eu lieu. Si tu veux, c'est totalement anormal que la Suède ait attendu aussi longtemps pour déclarer qu'il y avait eu des explosions. C'est totalement scandaleux qu'il n'y ait pas d'image. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un événement, pour moi, qui aura des conséquences pour la planète équivalent au 11 septembre. C'est-à-dire que le 11 septembre a changé toute la géopolitique profonde. C'est pour ça que le nom de ce site est vraiment intéressant, de façon définitive. C'est-à-dire que c'est la première fois où, suite à ça, il y a eu officiellement des guerres préventives. C'est-à-dire que des pays ont été attaqués préventivement. C'est-à-dire l'Irak a été attaqué parce qu'ils étaient censés avoir des guerres, des armes de destruction massive que personne n'avait vues, préventivement. Et bien là, les sabotages de Nord Stream vont avoir des conséquences systémiques terribles parce que les Allemands comprennent qu'il y a quelqu'un qui leur veut tellement de mal et de bien qu'en fait il a décidé de détruire l'industrie allemande. Et je pèse mes mots en disant détruire. Quand un pays dépend à 40% de ce gaz, les gens ne doivent pas oublier que ce n'est pas parce que les tuyaux sont éteints qu'ils n'ont pas permis de remplir les réserves sur lesquelles on pompe aujourd'hui. Mais d'ici un mois, on n'aura plus de réserves, ni en France, ni en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, quand tu auras plus de réserves? Ils vont dire, ah merde, on n'avait pas réalisé qu'en fait, on pompait sur les réserves. Regarde la vitesse à laquelle il n'y a pas d'essence dans les pompes totales. C'est quasiment instantané.
Alors, oui, mais si par exemple la Suède, le Danemark, ces pays-là qui ont des intérêts à ce que Nord Stream existe sont complices, pourquoi ils sont complices? Quel est leur intérêt propre d'être complices d'une puissance étrangère qui leur fera tomber leur économie?
Mais Poutine a fait un discours le 30 septembre qui était relativement court et qui était important. Et il a dit, moi, ce que je constate de mon point de vue, et c'est vraiment quelque chose de fondamental à retenir, c'est que l'Europe est dans une situation terrible parce qu'elle a des gouvernements qui n'aiment pas les peuples. Elle a des gouvernements qui sont manifestement au service d'intérêts qui les dépassent, dont ils ne comprennent rien. Ils sont complètement aveuglés par ces espèces de discours dont certains le croient eux-mêmes, que pour sauver les libertés, pour sauver la démocratie, il n'y a pas de limite aux moyens à mettre en œuvre pour essayer de terrasser cette espèce de monstre russe sanguinaire et qui n'a qu'une envie, c'est d'envahir l'Europe, etc. Je pense que c'est totalement l'inverse, la réalité, que ces gouvernements sont complètement détachés de leur peuple. Et on remarque qu'il y avait énormément d'espoir avec l'Italie, mais qu'en réalité, tous ces gens qui ont des positions importantes, ils ont aussi des familles, ils ont aussi des trains de vie, ils ont aussi des influences, ils ont aussi. Et si on leur fait comprendre que si leur pays est pas sympathique, on va couper les aides dont ils dépensent. On va augmenter le taux d'intérêt de leur endettement parce qu'on va les détacher d'un certain nombre d'avantages liés à l'Europe. Ou tout simplement, on va les couper du SWIFT, ce qui a été fait avec la Russie. Donc, tu as des épées de Damoclès qui pèsent sur tous les petits pays d'Europe et même les plus grands pays d'Europe qui sont considérables. Et donc, en fait, bêtement, ils préfèrent une mort qui va être lente mais terrible pour leur pays et pour leur peuple, que une décision extraordinairement symbolique et stratégique qui serait de dire toutes ces sanctions, c'est n'importe quoi. Le fait de ne pas discuter en bonne intelligence avec la Russie, parce que qu'on le veuille ou non, on a besoin de vivre en bonne intelligence avec la Russie. Personne n'a envie de partir dans 10, 20, 30 ans de guerre, ça n'a pas de sens. Et surtout que les Russes, à un moment, ils vont se lasser. Et surtout quand Zelensky dit aux alliés, il faut absolument que vous fassiez des destructions atomiques en Russie de façon préventive, il annonçait ça hier. Hier, Zelensky a dit ça à haute et intelligible voix. Il a dit aux alliés, utilisez l'arme nucléaire de façon préventive contre les Russes. C'est-à-dire que tout le monde maintenant commence à utiliser ce mot. Poutine a dit, lui également, que toutes les armes étaient sur la table. Toutes les armes sont sur la table. Le nombre de porte-avions nucléaires, de sous-marins nucléaires, des États-Unis qui sont en face de la Chine, dans le détroit de Taïwan, en mer du Nord, en Méditerranée. Enfin, en Méditerranée, tu as deux porte-avions nucléaires américains. Tu as une escadre de porte-avions américains. Tu en as deux ou trois, je crois, qui sont du côté de la mer de Chine. Enfin, on est véritablement sur une poudrière.
Est-ce que ça signifie...
Et personne ne dit stop.
Est-ce que ça signifie qu'on est au bord de la troisième guerre mondiale nucléaire?
Bah, ce serait la première guerre mondiale nucléaire.
Voilà. Non, mais la troisième guerre mondiale, virgule, qui serait... Quoique la deuxième guerre mondiale aussi, sur la fin, a été nucléaire avec le Japon. Donc, est-ce que ce risque est important?
Bah, je vais te donner juste un exemple très symbolique. Tu as quelqu'un qui s'appelle Ramzan Kadyrov, qui est le chef d'État tchétchène. Et Ramzan Kadyrov a dit, suite à la prise de Krasny Liman dans la foulée des référendums, les Ukrainiens ont repris cette ville relativement importante. Et Kadyrov a dit, voilà, on a mobilisé trop tard, on s'est laissé dépasser par les événements. Les hauts gradés russes ne sont plus du tout adaptés aux décisions et à la guerre actuelle, qui est beaucoup plus technologique, avec des décisions beaucoup plus rapides à prendre, etc. etc. Il a été terrible, il faut écouter le discours de Kadyrov. Et il a dit par ailleurs que lui-même allait envoyer ses enfants, si c'était possible et accepté, qui sont jeunes, qui ne sont pas majeurs, au front. Il a dit maintenant, c'est vraiment le rôle de tous les Russes, cette guerre est vitale, etc. Mais surtout, il a dit, Kadyrov, exactement ce que Zelensky a dit. Il a dit, il faut véritablement envisager de l'arme atomique. Il l'a dit, il l'a écrit, et ça a été reporté dans les différents médias. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé hier? Kadyrov vient d'être monté en grade. C'est-à-dire que Kadyrov est devenu le troisième rang le plus gradé dans l'armée russe. Mais Kadyrov, il est jeune. Donc, il est le plus jeune à atteindre ce grade. C'est-à-dire, le sommet, tu vois, tu as une ou deux personnes qui sont gradées au sommet. C'est le chef d'état-major des armées, etc. Et en dessous, c'est comme dans l'armée...
C'est-à-dire que Kadyrov aura dorénavant le droit de parler sur la stratégie des Russes sur la
guerre d'Ukraine. Exactement. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que Poutine, puisque cette nomination aussi rapide et aussi surprenante ne peut être qu'une décision de Poutine, fait passer le message à ceux qui suivent ces informations qui sont importantes que Kadyrov a été entendu. C'est-à-dire que sans le dire, Poutine promeut ce message, promeut qu'il va y avoir un changement de braquet considérable dans la manière avec laquelle l'armée russe va appréhender la suite de la guerre, et que le nucléaire est non seulement sur la table, mais il est sur la table d'un point de vue tactique. Mais c'est énorme, c'est cette décision de promouvoir Kadyrov à ce rang juste après les déclarations, alors qu'en principe, dans un pays qui n'a pas cette intention, quelqu'un qui dirait ça, qui utiliserait de façon aussi belliqueuse le mot nucléaire, il serait sanctionné, les diplomates diraient non, non, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Mais Medvedev a tenu les mêmes propos. Lavrov a tenu les mêmes propos. Poutine a tenu les mêmes propos, mais on refuse de les écouter. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui bluffent. Ils disent ça, ils disent pas ça.
Joe Biden, cette nuit, justement, a dit qu'il ne bluffait pas.
Oui, Biden a compris que ce n'était pas du bluff, ouais.
Alors, j'ai une question d'un internaute.
Enfin, je ne sais pas ce qu'il est capable de comprendre, Biden, d'ailleurs, hein, excuse-moi.
Bon, en tout cas,
on lui a dit de comprendre que ce n'était pas du bluff. Compris.
Alors, Clou Intelligent pose la question. Bonjour, comment évaluez-vous le potentiel de révolte populaire sérieuse des Européens et Français contre l'atlantisme et le zélinquisme des dirigeants? Car ça parle sur Twitter, mais personne dans la rue.
Alors d'abord, je pense que c'est les personnes commencent vraiment à appréhender le changement majeur que je comparais vraiment au 11 septembre d'attaque des deux tuyaux. Et il y a eu un certain nombre de cartoons qui ont été faits pour montrer effectivement la comparaison. Donc c'est vraiment une bonne question. Pourquoi les peuples ne sortent pas plus dans la rue? Je pense que les gens vont sortir dans la rue quand ils vont véritablement avoir faim. C'est pas le froid qui va nous faire sortir, c'est la faim. Et la faim peut arriver assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'une ville comme Paris, donc a fortiori la banlieue parisienne, les réserves de nourriture sont de quelques jours. On a vu récemment un incendie se déclarer à Rungis. Donc on voit que toutes ces chaînes d'approvisionnement sont fragiles en France. Et donc très très rapidement, on peut avoir une rupture d'approvisionnement. On le voit avec l'essence en ce moment. On l'a vu, c'était symbolique, mais pas si symbolique que ça, avec la moutarde. On l'a vu avec un certain nombre de choses. Ça peut se passer très très vite, ça c'est la première chose. Donc il va y avoir des étincelles, mais ces étincelles, elles seront lieu à l'incapacité de trouver facilement de la nourriture, et ça va arriver. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit ça pour être alarmiste, je n'ai rien à vous vendre, je ne vends rien à personne, je ne fais partie d'aucun fonds pour essayer de vous conseiller, je n'ai pas écrit de livre, je suis vraiment là pour vous partager mon analyse. Mais la deuxième chose aussi, qui se passe, c'est que les gens sont terrifiés par ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Il faut quand même se rappeler que pendant les manifestations de Gilets jaunes, il y a eu des milliers de personnes qui ont été mises en prison, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été défigurées, dont certains ont perdu un œil ou ont perdu une main, etc. Mais surtout, à moins d'habiter dans une grotte, les moyens de répression qui sont en train d'être mis en œuvre sont considérables. Je rappelle quand même aux personnes qui nous écoutent ce qui s'est passé au Canada et qui pourra très bien se passer ici aussi. C'est qu'au Canada, ils ont fait le convoi de la liberté, qui était une manifestation très grande avec des gens qui se sont engagés. Et assez vite, ces gens qui s'engageaient et qui perdaient leur salaire, qui avaient des coûts très importants pour rester mobilisés à Ottawa, ont proposé de faire des cagnottes. Eh bien, tous les gens qui ont participé à ces cagnottes, qui ont voulu soutenir les manifestations, ont été considérés comme des terroristes intérieurs et leurs comptes ont été bloqués, ils ont été attaqués, etc. C'est-à-dire que l'arsenal qui a été testé, l'arsenal juridique qui est mis en œuvre, sans compter les véhicules avec des mitrailleuses, etc., etc., dont s'équipe la police nationale, sont considérables. C'est-à-dire que la possibilité de vraiment faire payer très cher aux gens qui auraient le courage de se lever contre l'État est forte. Et forcément, ça va réduire le nombre de velléités. Mais le plus important aujourd'hui, c'est pas forcément d'être dans la rue, c'est faire le travail que tu fais, Mike, le travail que font un certain nombre de personnes, c'est d'inviter des gens comme moi ou d'inviter d'autres personnes qui essaient de tenir un langage de vérité. Puisque la première arme dans une société, La première arme, c'est l'intelligence. C'est la capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'avant que les gens se lèvent, il faut que le plus grand nombre prenne conscience de ce qui est en train de se passer.
Ce que tu dis, c'est quand même
la destruction de nos sociétés.
Bien sûr, mais ce que tu dis, c'est quand même très pessimiste, parce qu'en gros, visiblement, les États savent qu'il peut y avoir une révolte populaire, et donc les États se sont préparés, ne serait-ce que techniquement, à ces révoltes populaires.
Mais l'État français, il investit de deux manières en ce moment. Il investit massivement pour équiper avec des moyens de guerre la gendarmerie nationale, et j'utilise bien des moyens de guerre. Il utilise des fortunes considérables pour augmenter toutes les forces de répression intérieure. Et sinon, il fournit des quantités énormes d'armes pour aller sur le front ukrainien. Ce sont les deux préoccupations principales de notre gouvernement. Et comme il se focalise sur ces deux choses, il nous demande de baisser le chauffage. Bientôt, il va nous demander de manger moins. Et après, il va nous demander d'accepter d'euthanasier les anciens parce qu'ils ne servent à rien. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et je le dis très clairement, c'est ça qui se passe en ce moment dans l'Union européenne. Évidemment, ça ne se passe pas aux États-Unis, puisqu'en fait, les Américains vendent leurs armes à l'Europe, ils vendent leur gaz, ils vendent un certain nombre de choses. Ils ont énormément de problèmes aussi, les Américains. C'est un géant au pied d'argile qui repose sur le pétrodollar. Mais il s'est passé des choses très importantes au cours des dernières années. Il ne faut pas croire que les Russes sont seuls. Ils ont l'Arabie Saoudite qui vient de prendre une décision majeure au niveau de l'OPEP de réduire les volumes de pétrole qui sont vendus. Il y a des décisions qui sont extrêmement importantes, qui sont en train d'être prises en ce moment et qui montrent qu'il y a exactement ce que Lavrov expliquait au tout début de l'opération spéciale, de plus en plus de pays qui se disent « si on ne se lève pas contre cette espèce de dictature globaliste d'intérêts privés, cyniques et destructeurs maintenant, on n'aura plus jamais l'occasion de le faire ». Et c'est véritablement un moment charnière, et ce qui s'est passé avec Nord Stream, c'est le pivot de tout ça. C'est le moment où les Russes comprennent…
Est-ce que vraiment ça profite aux Américains, cette explosion de Nord Stream ? Déjà voilà, mettons les pieds dans le plat. Est-ce que ce sont les Américains qui ont fait ça ? Voilà. Et est-ce que, si ce n'est pas eux, est-ce que ça leur profite ?
Alors, je pourrais poser la question par l'absurde. Qui d'autre que eux peut l'avoir fait ? Et là, je laisse chacun répondre. La réponse semble être totalement évidente. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, ça ne va profiter à personne. La raison pour laquelle la Russie, qui sait bien que l'Europe est en guerre contre elle, continuait à nous approvisionner en gaz, alors que couper l'énergie vers l'Europe, c'était détruire l'Europe. Puisque l'Europe nous disait, les dirigeants européens, on va couper le gaz, mais ils étaient contents d'avoir le gaz pour remplir leurs réserves. On va se passer du gaz russe, mais si les Russes arrêtaient de donner du gaz, ils disaient, vous utilisez ça comme une arme énergétique. Donc, c'est toutes ces contradictions de discours. Mais en fait, si l'Europe s'effondre, que la Chine se retourne, et la Russie, et la Chine, et l'Arabie Saoudite, et l'Iran, etc., s'allient, et que la Turquie... à un moment, décide finalement de tourner sa veste et d'aller beaucoup plus, comme ils ont commencé avec l'armement, avec leur énergie, avec beaucoup de choses, vers la Russie. Les Américains, ils vont être bien isolés. Effectivement, ils seront loin d'un jeu de massacre qui va se passer en Europe. Parce que le jour où l'Europe aura plus cette espèce de richesse artificielle qui est lié à cette tradition extrêmement colonialiste, donc colonialiste de l'Afrique, dont on se fait sortir pas à pas par tous ces pays qui ont permis une grande richesse chez nous. On voit bien Mali, Burkina Faso, Centrafrique, le Sénégal qui s'est abstenu dans bien des décisions de condamner la Russie et de montrer qu'ils n'étaient pas du tout alignés avec les décisions françaises. Franchement, ça ne profitera pas à, in fine aux Américains. Mais en réalité, les Américains, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde n'est plus monopolaire et sous l'emprise des États-Unis et qui devient bipolaire, voire multipolaire, tout le système américain s'effondre. Parce que le système américain, il repose sur un certain nombre de choses qui s'appellent le dollar, qui est la monnaie d'échange mondiale. Donc, les Américains peuvent en imprimer autant qu'ils veulent et les gens doivent continuer à en acheter, à utiliser des dollars pour toutes leurs transactions. Et le SWIFT, qui permet d'avoir des dollars électroniques. Et on a vu à quelle vitesse les Américains pouvaient les confisquer puisqu'ils ont montré que la propriété privée n'existait plus. L'argent qui appartenait aux Russes a été pris, gelé du jour au lendemain. C'est quand même 600 milliards. Et de l'or russe qui était confié même aux Suisses, qui sont sortis de leur neutralité pendant cette période-là. Bon, maintenant, il y a plus d'ambiguïté dans la position qui est celle des Suisses. Mais non, ça profitera à personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut profiter au monde entier, c'est d'avoir une attitude constructive entre les pays. La guerre ne profite jamais à personne. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a toujours, suite à une guerre, on voit bien, il y a un esprit de revanche. C'est l'histoire de l'humanité. Suite à une guerre, effectivement, il y a des pays qui vont profiter de la reconstruction de l'autre, mais il y a d'autres pays qui vont être victimes de ça et qui s'en rappelleront. C'est comme le colonialisme, c'est comme toutes ces choses-là. À chaque fois que tu abuses de quelqu'un, et on voit, on s'intéresse beaucoup, tu vois, tout ce qui est culture woke, la défense des minorités, la défense des femmes, etc., etc. On se rend bien compte que quelqu'un qui abuse de son pouvoir, à un moment ou à un autre, le système lui retombe dessus. Mais ça retombe dessus de façon hystérique. D'où l'intérêt de faire confiance aux institutions mondiales, même si elles sont imparfaites, aux Nations Unies, etc., etc. Parce qu'en fait, elles ont un certain nombre d'intérêts. Mais ces institutions, elles ont été prises en main par des personnes extraordinairement riches, par des organisations de lobbying, etc. Quand tu sais qu'une ville comme Bruxelles, à peu près les deux tiers des revenus qui sont distribués à Bruxelles sont des revenus qui sont distribués nets d'impôts aux employés de l'Union européenne et sinon à des lobbyistes. Ce sont des villes qui ne vivent bien que sûr, pour pipoter les citoyens.
Mais est-ce que, pour revenir toujours à Nord Stream, est-ce que Nord Stream est définitivement foutu ou réparable, et s'il est réparable, c'est sur combien de temps?
Écoute, à partir du moment où la société qui gère n'a pas le droit d'accéder aux dégâts, si t'imagines, la société qui possède et qui gère ce lieu n'a pas le droit d'accéder aux dégâts. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est extrêmement compliqué d'évaluer est-ce que c'est réparable ou pas. Les Russes disent il y a moyen de reconnecter des tronçons. Il y a moyen de reconnecter. Mais parce qu'en fait, avec le bon matériel, avec l'accès à l'océan, on voyait bien, ils étaient capables de faire plus de 3 km par jour de tronçons. Et ils seraient capables d'aller plus vite maintenant, puisque les bateaux ont été encore sans cesse modernisés. 3 km par jour. Donc, ça veut dire que s'il fallait faire un tronçon de 100 ou 150 km, allez, en deux mois à tout casser, tout serait réparé. Et c'est ce que évaluent la plupart des gens, disent, pour remettre ça en marche, il faudrait pouvoir agir très vite et remplacer à peu près 100, 150 mètres de tuyaux. Donc, il y aurait 2-3 mois de travail. Et 2-3 mois de travail, en gérant bien les gazoducs qui passent par la Pologne, qui passent par la Turquie, puis qui passent, l'Europe pourrait être sauvée. C'est-à-dire entre les réserves qui existent, les gazoducs, le gazoduc qui passe par la Norvège, le gazoduc qui passe par la Pologne, les gazoducs qui sont opérationnels par l'Ukraine, etc. L'Europe pourrait être sauvée. Mais l'Europe ne veut pas être sauvée. Ce n'est pas l'Europe qui ne veut pas être sauvée, c'est les dirigeants européens. Ils sont pieds et poings liés dans un discours complètement suicidaire. Toutes les sanctions qu'on a prises se sont retournées contre nous et ne servent que des intérêts extraordinairement limités.
Mais alors, j'ai une autre question. Parce que moi, je pense souvent à la France. Hein. Je pense moins aux Allemands, je pense plus à la France qu'aux Allemands. Et je sais qu'en France, nous avons beaucoup de gaz de schiste. Est-ce que il n'est pas possible pour la France de se passer de Nord Stream et récupérer son propre gaz de schiste?
Alors, si à terme c'est quelque chose qui est possible, mais évidemment c'est long parce que on sait qu'il y en a, mais il va falloir aller le chercher. il va falloir trouver des usines parce qu'en fait, le gaz de schiste, contrairement au gaz russe, et bon, c'est des installations, il faut 3-4 ans pour mettre des usines en place pour le traiter. Et ensuite, il faut le transporter. C'est-à-dire que là où on a du gaz de schiste, il va falloir quand même faire des gazoducs qui vont aller vers les zones d'usage. C'est comme quand tu fais une centrale nucléaire. Tu ne construis pas que la centrale nucléaire, tu vas devoir construire tout le maillage d'électricité qui va permettre à cette centrale nucléaire d'abreuver. C'est pareil avec le gaz. Ça, c'est la première chose. Mais il faut savoir quand même que le gaz de schiste, c'est pour ça que c'est quelque chose d'extraordinairement controversé, c'est que c'est un gaz dit de Roche-Mère et qui s'obtient par fracturation de l'écorce terrestre. C'est-à-dire que pour faire sortir le gaz de schiste, pour pouvoir l'obtenir, en fait, il faut faire péter des bombes très puissantes, en fait, en profondeur. Et ces bombes vont permettre de libérer ce gaz et qui va sortir dans des tuyaux. Mais quand tu fais péter ces bombes, et ben parfois, et on a vu, il y avait plein d'images sur Internet, ça va toucher des nappes phréatiques, etc. Et donc, tu vas avoir ce gaz qui va être dans l'eau et les gens s'amusaient, tu vois, mettre une allumette et l'eau quasiment prenait feu, en fait. Alors, c'est anecdotique, mais les conséquences environnementales du gaz de schiste ne sont pas négligeables. Et il faut vraiment les appréhender. C'est pour ça que beaucoup de pays ont décidé, relativement sagement, de ne pas chercher ce gaz. Parce que, d'un point de vue écologique, il peut y avoir des conséquences systémiques. Et surtout, et ce n'était pas nécessaire, puisqu'on avait accès au gaz russe qui est propre, qui est facile à transporter, qui est pas cher, qui est fiable, qui avait toutes ses qualités. C'est à partir du moment où on décide de se priver de ça, sous prétexte que les Russes sont des méchants, mais il faut être cynique. Quel est l'intérêt de la France? C'est traiter les Russes de méchants. Ok, on voit que ça marche pas, parce qu'on essaie de se passer de leur gaz, ils nous le vendent 5 fois plus cher, ils en vendent plus à d'autres pays, et ça ne change absolument rien pour eux. On se prive nous-mêmes. Tu sais, quand il y a des sanctions qui sont prises, tu as des réactions différentes selon les pays. Tu as les pays européens qui réagissent de façon hystérique et qui prennent des décisions qui peuvent éventuellement servir les Américains, qui ont ce fameux gaz de schiste à vendre, mais où les Européens ne réalisent pas les conséquences que ça va avoir pour eux. Il y a beaucoup de gens qui, depuis des mois, disent « on va arriver dans cette situation, on y est maintenant ». Mais à l'époque, personne ne voulait croire. Ça paraissait absurde de dire qu'on va manquer d'électricité, qu'on va manquer de choses comme ça. Mais tu remarqueras que les Russes et les Chinois, parfois, ils font même pas de sanctions. Mais ils n'ont pas besoin de faire de sanctions s'ils disent « mais en réalité, vous sanctionnez vous-même. On voudrait vous sanctionner. On ne pourrait pas vous atteindre aussi violemment que vous vous atteignez vous-même. » Les Russes, ils sont même pas en train de dire on va faire une rétaliation sur Nord Stream. Ils savent que ce n'est pas eux les coupables. Ils aimeraient bien que la justice indépendante, qu'il y ait une vraie enquête. Mais le fait d'avoir détruit les gazoducs Nord Stream, c'est la pire punition possible et imaginable pour l'Union européenne. Je rappelle à nouveau pour toutes les personnes qui nous écoutent que si aujourd'hui on n'a pas de problème instantanément, c'est parce qu'on avait rempli nos réserves. Mais on est en train de pomper dessus. Et quand on n'aura plus de réserve, qu'est-ce qu'on va faire? On sait tous bien que si tu es sur une île déserte avec 50 kilos de riz et que tu n'as plus de culture de riz sur l'île et que tu dois vivre avec 50 kilos, c'est vachement stressant parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Alors, tu essaies de trouver des œufs de mouette, tu essaies de choper des poissons, etc. pour éviter de trop taper. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Est-ce que les Russes, malgré tout, perdent de l'argent avec cette explosion de Nord Stream?
Évidemment, ils perdent de l'argent. Mais comme les Russes ne peuvent plus commercer avec nous, on interdit quasiment tout, tu sais, avec les trains de sanctions. Donc, ils perdent un peu d'argent. Mais il ne faut pas se leurrer. De la même manière pour le gaz que pour le pétrole, de toute façon, il va y avoir des marchés parallèles qui vont contourner les sanctions qui vont être mises en place. On voit bien que même l'Arabie Saoudite achète des tankers de pétrole aux Russes pour utiliser ce pétrole pour fabriquer leur électricité dans leur centrale à électricité et pour pouvoir revendre plus de leur pétrole. Les gens disent, mais l'Arabie Saoudite ou d'autres pays pourraient produire plus de gaz. mais c'est très mal comprendre comment ça se passe, la production. Le pétrole ou le gaz, c'est pas « oh, j'ouvre un peu plus le robinet ». Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir que le sous-sol, c'est une grosse éponge dans laquelle on a mis un certain nombre de pailles. Et si tu suces trop les pailles, eh ben, tu vas pouvoir produire beaucoup moins de pétrole que le potentiel de la zone en question. Donc, les pays producteurs et qui ont des quantités limitées, il n'y a que la Russie qui a des quantités illimitées. À chaque fois qu'ils creusent quelque part en Sibérie ou Yakoutie ou ailleurs, ils trouvent des quantités incroyables de gaz ou de pétrole. Donc, eux, c'est pour ça qu'il y a des convoitises pour tout le monde. Mais en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, à part en Iran, qui n'a pas du tout exploré tout ce qui était explorable compte tenu de toutes les sanctions et toutes les guerres, c'est limité. Et donc, ils ont un temps limité pour proposer leur pétrole. Et ces gens-là, ils savent, ils ne sont pas totalement stupides, qu'ils n'ont pas intérêt pour satisfaire ponctuellement les besoins de personnes qui, par ailleurs, n'en ont rien à foutre d'eux, d'ouvrir trop et de gâcher leur champ pétrolier. Ce que je dis, c'est assez technique, mais il faut vraiment comprendre qu'un champ pétrolier, ce n'est pas un château d'eau où, quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir vider le château d'eau. Un champ pétrolier, c'est une éponge à l'intérieur de roches qui fait pression. Et si tu pompes trop vite, en fait, bah, tu perds le potentiel de ça. Et il faut vraiment que les gens comprennent que c'est un art, entre guillemets, de chercher du pétrole et du gaz sous terre. À part le gaz de schiste, où plus tu fais péter les corps terrestres, plus tu en récupères.
Mais là, actuellement, on voit que dans les stations essence, il n'y a plus d'essence. À quoi est due cette pénurie? Est-ce que c'est dû aussi au Nord Stream? Est-ce que c'est une pénurie qui est voulue aussi peut-être par l'État?
Je pense qu'ils nous testent. C'est toujours pareil. Je crois maintenant plus qu'il y a de coïncidence. Que tout ça se passe en synchronisation avec Nord Stream, avec les référendums, avec la montée en charge de la guerre, etc., etc. Ils sont en train de faire passer le message, tout doucement, qu'on pourrait manquer assez facilement d'essence, etc. Donc, c'est un message très fort que reçoivent les gens, d'où le fait qu'ils aillent faire une heure de queue pour essayer de remplir leur réservoir. Mais surtout, on met ça sur le dos des manifestants. Donc, ils disent, il y a des blocages dans les raffineries, etc. Donc, invariablement, en fait, c'est nous qui sommes les propres responsables de nos problèmes. Ce n'est pas les groupes pétroliers qui annoncent des dizaines de milliards de bénéfices et qui refusent d'augmenter les salaires de personnes essentielles sur la chaîne de valeur, dont les chauffeurs routiers qui transportent ces citernes partout, souvent en roulant à des heures délicates, puisque c'est celles où ils ont le droit d'aller livrer, tu vois, quand les supermarchés sont pas ouverts ou quand les stations sont pas ouvertes. On est véritablement dans un espèce de moment paroxysmique, entre guillemets, où on sent, c'était la question que tu me posais, que la société peut exploser à cause de la difficulté d'accéder à l'essence. On a vu, c'est ce qui s'est passé au Sri Lanka. Le problème au Sri Lanka est le fait qu'il y a la révolution au Sri Lanka. Mais véritablement, on n'a pas beaucoup d'images qui viennent à nous, mais c'était la nourriture et l'essence. C'est-à-dire que le jour où le gouvernement a dit « on ne donne plus d'essence aux particuliers, l'essence c'est pour la police, c'est pour l'armée, c'est pour les ambulances, c'est pour les personnels administratifs, et éventuellement, si on réussit à redresser la barre, les particuliers auront le droit à 15 ou 20 litres d'essence par semaine ou par mois avec des tickets de rationnement », eh ben tu modifies tout l'équilibre vital d'une société entière.
Mais du coup, est-ce que nos élites qui organisent tout ça ne jouent-elles pas avec le feu? Parce que, ok, alors, par exemple, tu as dit tout à l'heure que l'État a pas mal investi sur l'armement de la gendarmerie, etc. Mais les policiers, les gendarmes, ils ont quand même des familles, voilà, ils vivent, c'est quand même des citoyens. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas aussi se retourner contre l'État?
Mais si tu veux, quand tu as le pouvoir depuis un certain nombre de personnes, tu vas sélectionner aux différents grades des gens dont tu es sûr de la docilité. On voit bien au niveau de l'état-major, les généraux les plus gradés de l'armée ont été remerciés et ils ont été remplacés. C'est ce que disent tous les gens de haut niveau dans l'armée. Moi, j'ai fait mon service national, j'étais aide de camp d'un général de corps d'armée. Il se trouve que ce général, il était président de la commission qui nomme les colonels qui vont être proposés au gouvernement pour devenir généraux. Puisqu'en fait, c'est le gouvernement qui choisit, si tu veux, qui devient général par rapport au budget, par rapport à un certain nombre de critères, etc. Et il m'est arrivé pendant des années de discuter avec lui en me disant que plus le temps passait, moins le système hiérarchique ne permettait d'avoir les meilleurs, entre guillemets, au sommet de la hiérarchie. Puisque, en fait, quand tu es un haut gradé, tu passes de plus en plus de temps en état-major. Et quand tu es en état-major, bah, pour être bien noté, il faut avoir un certain type de caractère et qui n'est pas forcément le type de caractère que tu veux pour quelqu'un qui est capable de dire à ses hommes « Attention, on fait fausse route, le gouvernement fait fausse route, on ne peut pas tirer sur les civils, on ne peut pas se comporter comme on se comporte avec le peuple, etc. » Donc, on crée, mais c'est important dans l'armée, hein, que les gens soient obéissants, mais jusqu'à une certaine limite. Et bien là, on a sélectionné, ou en tout cas, ils ont essayé de sélectionner des gens qui sont obéissants au-delà de toute limite. Même il faut bien comprendre, c'est qu'on a des personnes obéissantes au-delà de toute limite.
Mais même parmi la base, parce que, ok, les généraux, ok, ils sont obéissants, mais ceux qui ne sont pas genre, pas moi, lieutenant ou capitaine, ceux-là, là…
Mais en fait, on vit dans un monde dans lequel pratiquement tout le monde est endetté. Je te rappelle qu'au cours des dernières années, c'était possible de t'endetter à taux très très bas. Et donc, chaque personne a besoin, parce qu'il n'y a qu'une chose dont tu es sûr, c'est que tu vas devoir payer tes impôts et tu vas devoir payer tes dettes. Et donc, toutes les personnes, en fait, ils ont cette contrainte, même si les taux d'intérêt sont très bas, d'avoir 10, 15, 20 ans de dettes à rembourser. Et donc, l'État a créé des esclaves, en fait, des esclaves qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas se rebeller, parce que si elles se rebellent, elles perdent tout ce qu'elles sont en train d'essayer d'acquérir aux fruits de leur labeur. Donc, tu crées une docilité terrible. La dette est le moyen le plus formidable d'avoir un peuple servile et docile. Et au cours des dernières années, on a permis aux gens, c'était ce qui s'était passé un peu aux États-Unis avec les subprimes, mais de façon tellement excessive que ça a eu toutes les conséquences qu'on connaît, mais de faire en sorte que des gens, même jeunes, etc., même plus âgés, recommencent à s'endetter. Et pas peur. Et c'est le côté absurde d'ailleurs, c'est que les gens parfois ont beaucoup d'argent à la banque, ils ont beaucoup de capitaux, mais les intérêts étaient tellement, la possibilité d'emprunter était tellement favorable qu'en fait ils n'ont pas hésité à se lier à des emprunts durables entre guillemets. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un portefeuille financier qui peut avoir une perte considérable de valeur en quelques jours, parce qu'on sent qu'on est proche de crash possible, si tu veux, et c'est ce qui se passe un peu aux États-Unis en ce moment pour les gens qui suivent les marchés. Mais tu as des centaines de milliards qui partent chaque semaine en fumée, etc. Et on est vraiment à la croisée des chemins. On est à un moment où, effectivement, tout le monde va devoir se demander pourquoi il se bat, qu'est-ce qui a du sens dans sa vie, pourquoi il se lève le matin, pourquoi il s'exprime quand il est avec ses amis, etc. Il faut que la peur, elle sorte de nos vies. Il faut que, effectivement, les gens aient le courage de penser par eux-mêmes et le courage de s'interroger par eux-mêmes et le courage de remettre en cause ce qu'on leur dit sans cesse à la télé, sans cesse dans les médias, partout. C'est vraiment un moment de vérité, de recherche de vérité. Et je reviens sur le discours de Poutine. Le mot « vérité », c'est celui qu'il a utilisé le plus dans son discours. Il n'a pas dit, évidemment, il a dit que lui disait la vérité. Mais l'important, en fait, c'est que la vérité, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui, depuis un certain nombre d'années, est devenu obsolète. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent plus véritablement à ce qu'est ou n'est pas la vérité, ils acceptent ce qu'on leur dit. Et il faut que ça change.
Mais ça veut dire que, en fait, parce que beaucoup de gens ont espoir, peut-être parce que dans notre pays, on a eu Bonaparte, on a eu le général de Gaulle, donc beaucoup ont espoir d'une forme de coup d'État militaire, voilà, faut le dire. Et visiblement, ça n'arrivera pas.
Non. Mais ça n'arrivera même pas un peu. Je vais te donner un exemple que peut-être tout le monde dont tout le monde se souvient. Mais il y a quelques années, il y a eu un coup d'État en Turquie. Et Erdogan a failli être, il y a eu un putsch militaire. Bon, ben, les personnes qui suivent ça de près, savent que le putsch, en fait, il a été possible uniquement à partir de garnisons de l'OTAN, dans lesquelles le commandement est totalement américain, puisque c'est un commandement totalement intégré, etc. Donc, ce ne sont pas des putschs qui sont venus de personnes d'état-major qui étaient des Turcs contre les Turcs ou des Turcs pour les Turcs, entre guillemets, c'était commandé. Et ce qu'un certain nombre de personnes disent très précisément, et c'est ce qui a rapproché après considérablement Erdogan de Poutine, c'est que ce sont des forces spéciales russes qui ont sauvé Erdogan. Ça s'est passé vraiment à quelques minutes près. Et si Erdogan avait été capturé avant que les Spetsnaz le prennent de là où il était, puisque c'était un moment où il était en villégiature au bord pas de la mer Noire, du Bosphore, voilà, où il était dans le Bosphore, mais si lui, il avait été capturé, le sort du putsch aurait été complètement différent. Mais pendant quelques heures, il y a eu un inconnu, entre guillemets, c'est-à-dire personne ne savait trop où était Erdogan, et finalement, il est réapparu et il a réussi à reprendre le contrôle. Mais c'était quelque chose, effectivement, qui avait été extraordinairement bien préparé, c'est-à-dire ce putsch, mais qui a échoué juste parce qu'une puissance étrangère est intervenue. Donc, il a eu lieu parce qu'une puissance internationale a fermé les yeux ou a provoqué, et il a été compensé parce qu'une autre puissance est intervenue. Et donc, on sent bien qu'en réalité, toute possibilité de changement dans un pays ne peut avoir lieu que si une très grande puissance s'en mêle. Et on a cet exemple qui a un peu défrayé la chronique, c'est que les gens étaient surpris de découvrir que les Chinois avaient mis des espèces de commissariats de police partout dans le monde où ils avaient des grandes communautés. Et on sent bien que les très grandes puissances maintenant s'intéressent au sort et à l'organisation de toute leur population, où qu'elle soit dans le monde. Mais maintenant, on est revenu aussi dans un problème de religion, entre guillemets. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la religion de l'argent et de l'autre côté, tu aurais une espèce de religion traditionnelle. Donc, pour comparer, hein, ce serait le dieu des catholiques, hein, des catholiques orthodoxes, face au dieu dollar, en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment avoir en tête. Donc, une révolte ne peut pas avoir lieu.
Donc, ça voudrait dire que... demain, s'il doit y avoir changement de régime en France, ça ne peut pas se faire sur un changement que la population, mettre en place, mais il y aurait derrière ça une puissance étrangère qui aiderait un nouveau régime, en fait. C'est ça.
Exactement, c'est la seule possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien, si on s'intéresse à l'actualité française, que... Les gouvernements ne peuvent pas être élus, ou en tout cas pas facilement être élus, sans le soutien des technocrates de Bruxelles et des Américains, etc., qui font un peu la pluie et le beau temps. On a beaucoup accusé Trump d'avoir été élu avec l'aide des Russes, puisque ça a pris quasiment toute l'énergie et tout son mandat. On sent bien que tous les pays du monde savent que seules les grandes puissances peuvent changer un espèce d'ordre établi, un espèce de conformisme qui fait que ce sont les gens qui sont en bonne odeur de sainteté avec les médias qui sont contrôlés par les plus grands capitaines d'industrie, qui eux-mêmes sont contrôlés par les mêmes hommes politiques, puisqu'en fait, tout ça, ça se passe de façon consanguine, entre guillemets.
Mais toi, qui connais bien la Russie, est-ce que tu penses que la Russie essaye de faire changer le régime français par un autre régime.
Non. Non, pour les Russes, d'abord, ils ont beaucoup de choses à faire chez eux. Il faut quand même se rappeler que quand Poutine arrive en 99 au pouvoir, parce que Yeltsin le désigne comme son remplaçant quand il démissionne, il a un pays qui est exempt, qui est détruit, sans armée, etc. Tout qu'aujourd'hui, il reste vraiment c'est les écuries d'Augias. Encore aujourd'hui, la Russie, il y a, comme partout dans le monde, il y a plein de problèmes à régler. C'est les 12 travaux d'Hercule. Donc, Poutine, il essaye, mais comme le font les Russes, si tu veux, tu as deux modes de communication en ce moment dans le monde. Tu as cette espèce de rabâchage par tous les médias du discours des Américains, de l'OTAN et de l'Union européenne sur tous les sujets. C'est rabâché, rabâché, rabâché. Tu as les mêmes éléments de langage dans tous les médias. Et les Russes essayent plutôt d'agir par la démonstration dite de la vérité. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a une adéquation entre ce qui est dit, ce qui est fait. Donc, ce qui est annoncé, ce qui va être fait, ce qui a été annoncé, ce qui a été... Et donc, c'est véritablement, tu sais, comme un espèce de goutte à goutte à la chinoise. C'est-à-dire que tu peux casser un rocher en faisant tomber 1000 litres d'eau goutte à goutte, mais si tu fais tomber les 1000 litres d'eau d'un seul coup, tu n'obtiendras rien. Eh bien, nous, on est dans un camp qui fait tomber sans cesse 1000 nouveaux litres d'eau, mais ça ne change pas ce qu'est la vérité. Et eux, en fait, vont réussir petit à petit ça. Mais il faut savoir que, et Poutine le dit bien, ce qui intéresse, ce n'est pas la France, c'est le peuple français. Et donc, effectivement, si petit à petit, le peuple français, le peuple allemand, tous ces peuples comprennent les choses, il va sans doute se passer un certain nombre de choses importantes, mais qui ne seront pas... dictée ou aidée par les Russes. Les Russes savent très bien que le jour où les Français vont avoir faim, ben moi en tout cas je le dis depuis très longtemps, c'est là où tout va bouger. C'est-à-dire oui, c'est quand les gens vont avoir faim, ils vont bouger.
Tu as dit tout à l'heure qu'il faut malgré tout une puissance étrangère derrière. Donc même si ça bouge, ça ne peut bouger s'il n'y a pas de puissance étrangère derrière que vers l'échec alors.
Non, non, ça je te disais dans le cas où on n'arrive pas à un point critique.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, la puissance étrangère, elle aurait pu aider, elle aurait pu influencer avant l'existence d'une crise majeure. Mais maintenant, avec Nord Stream, on se met dans une situation d'une crise tellement gigantesque que personne n'appréhende. On ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on puise nos réserves. Une crise tellement gigantesque, elle va toucher nos estomacs. Elle ne va pas toucher nos esprits parce qu'on sent qu'on nous ment. Elle ne va pas toucher le froid parce qu'on ne peut pas chauffer les anciens, parce que les enfants à l'école, ils ne sont pas chauffés, qu'on va leur distribuer des laines polaires, etc. Elle va nous toucher parce qu'on va avoir faim. Pour faire des engrais dont on a absolument besoin en France, il faut du gaz russe. Il ne faut pas du schiste. Pour faire du kérosène dont on a besoin pour les avions, on a besoin de pétrole russe ou de pétrole iranien ou de pétrole vénézuélien. Ça, c'est la réalité concrète.
J'ai parlé avec certains économistes dernièrement qui m'ont expliqué que l'économie américaine est tenue jusqu'au 8 novembre. Le 8 novembre, c'est les fameuses élections de mi-mandat. Bon. Est-ce que, après ce 8 novembre, étant donné que même les Américains ne pourront plus tenir l'économie, est-ce que on peut s'attendre à un krach? Est-ce que c'est peut-être la date fatidique de l'après 8 novembre où on peut s'attendre à ce fameux crack en France, je dis bien.
Moi, si tu veux, je joue pas mal aux jeux de stratégie, échecs, go, etc. Et c'est difficile de faire des plans sur la comète, sur les dates, etc. Puisque je pense que les personnes qui tirent les ficelles à droite, à gauche, ils ont exactement la même analyse. Ils savent qu'il y a ce risque à partir du 8 novembre. Ils savent qu'il faut absolument tenir jusqu'au 8 novembre. Mais ils vont toujours trouver d'autres moyens, en fait. Il va y avoir un échappatoire. Il va y avoir une piste. Il va y avoir une catastrophe. Il va y avoir quelque chose d'énorme, peut-être avant le 8 novembre, peut-être le 8 novembre ou dans la foulée du 8 novembre. Il se passera toujours quelque chose qui va essayer de retarder l'inéluctable. Mais comme tu dis, comme les économistes avec qui tu parles, il y a un inéluctable. C'est-à-dire l'inéluctable, c'est que l'Amérique va se recroqueviller sur elle-même et elle va évidemment perdre une grande partie de sa toute-puissance. La Chine, c'est un inconnu, comment la Chine va agir. Et la Russie va passer une période qui va être dure parce que cette espèce d'allié naturel de l'Europe va disparaître sur lui-même. Et disparaître de 1000 raisons différentes, hein, dont on pourrait faire la liste. Il faudrait autant de temps qu'on en a passé jusqu'à maintenant pour voir tous les problèmes qui se sont accumulés, entre guillemets, en Europe. Et donc, on va avoir un grand changement et qui va peut-être se traduire par une période formidable pour l'Afrique. Moi, je pense que qu'une grande partie de l'avenir du monde, d'où l'intérêt très fort des Russes pour l'Afrique, très fort des Chinois pour l'Afrique, très fort de beaucoup de monde, on va rentrer dans le temps de l'Afrique, en fait.
Alors, nous dépassons là les 1029 personnes en même temps, voilà, t'as vu, pour une matinée, c'est quand même pas mal, pour le coup, un vendredi matin. Donc, du coup, voilà, la révolte populaire peut se faire. Je veux dire, il y a quand même un espoir, quoi. Je veux dire, voilà, on ne peut pas laisser les gens comme ça en disant non, bon.
Quand les gens auront faim. Dès que les gens vont avoir faim, il y aura besoin de personne. Quand les gens vont avoir faim, mais même en Égypte, les esclaves qui étaient torturés, torsionnés, qui avaient tout ce que tu veux, c'est quand ils ont eu faim qu'ils se sont levés. Quand les gens ont faim, rien ne peut les arrêter, rien.
La fin, elle est pour bientôt. Est-ce que cette fin est inéluctable, elle aussi ?
Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce qu'il va se passer exactement la même chose avec l'agriculture russe et ukrainienne qui s'est passée avec le gaz. Il va se passer exactement la même chose sur les engrais. Donc, on a un certain nombre de personnes qui trouvent que... Je lâche le truc, qu'il y a trop de monde sur Terre. Pas que les vieux, il y a trop de monde sur Terre. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans cette Terre avec 7 milliards et demi ou 8 milliards d'habitants. Ils trouvent que ça n'a pas de sens. Si tu veux, ça a été écrit par Malthus il y a pas mal de temps, mais ça a dû être le livre de chevet d'un certain nombre de personnes. Et tu sais, tu as ce fameux truc des Georgian Towers, enfin Stones, pardon, qui ont été détruites, dans lequel il disait un monde avec plus de 500 millions d'habitants, c'est très mauvais. Et on essaie de nous culpabiliser en permanence, vous utilisez trop la voiture, vous faites ci, vous faites ça, vous faites
Mais est-ce
terre.
Que la situation actuelle n'est pas aussi peut-être une façon pour nos États d'imposer plus rapidement le grand reset ?
Alors déjà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas une théorie, le grand reset, c'est le titre d'un livre de Klaus Schwab, le patron de Davos. Il a été lu par quasiment tous les chefs d'État, tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes extrêmement puissantes dans le monde, petit un, et qui, d'une façon générale, ont adoré ce qu'il racontait et c'est rentré dans leur tête. Ça, c'est la première chose. Il y a quelque chose dans le grand reset qui s'appelle l'agenda 2030. C'est également quelque chose qui existe au niveau des Nations Unies, qui existe au niveau de l'Europe et qui inclut énormément de choses qui sont mises en œuvre, de contrôle facial, de contrôle de l'énergie, de la pollution, de toutes ces choses qui se mettent en place de façon accélérée. Il y a eu quelqu'un qui a été un espèce d'empêcheur de tourner en rond, qui a été Trump, qui a changé un peu la donne aux États-Unis par rapport à cet agenda, et d'où les efforts tout azimut qui ont été faits pour le remplacer. Mais il y a un autre qui fait encore plus, entre guillemets, de bouleversement, c'est évidemment Vladimir Poutine, et il y a cette espèce d'inconnu où en Chine, on sent bien, toutes les personnes qui suivent la Chine de près, qu'il y a une espèce de lutte à mort en Chine entre l'oligarchie mondialiste et globaliste pardon et l'oligarchie multilatéraliste et personne ne peut dire précisément qui va gagner parce qu'il faut savoir que l'acteur américain, pour ne citer que lui, il est quand même capable de dépenser des milliards en lobbying, des milliards en corruption, des milliards en intelligence pour évaluer toutes les possibilités. Si tu veux, quand tu joues aux échecs contre un ordinateur, et on pourrait comparer les États-Unis à un espèce d'ordinateur surpuissant, même si tu es un bon joueur, tu perds toujours contre l'ordinateur parce qu'il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait pas forcément un coup brillant dans la partie, mais de plus en plus avec l'apprentissage, il le fait, mais il ne fait pas d'erreur. Et ben, c'est exactement ce qui se passe au niveau mondial. Mais en revanche, l'ordinateur peut perdre contre 3, 4, 5 personnes qui sont extraordinairement fortes et qui vont jouer ensemble et qui vont être capables d'accepter ou d'identifier quel est le meilleur coup parmi elles. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est que tu as cet ensemble d'acteurs qui prennent conscience de ça et qui commencent petit à petit à unir en pas feutrés leur force et leur intelligence pour essayer de contrecarrer cette espèce de mainmise mondiale de plus en plus forte en fait d'un pays sur le reste de l'humanité et qui s'est traduit par Nord Stream. Je répète, ça peut paraître anecdotique à la plupart des personnes qui nous regardent, c'est un événement majeur, mais c'est un événement considérable.
Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Davos et compagnie, ils font pas d'erreurs, c'est des surhommes, c'est des machines.
Mais en fait, ils ont plein de coups d'avance. C'est pas qu'ils font pas d'erreurs. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu as utilisé le mot Great Reset. Moi, j'ai parlé d'agenda 2030, mais les deux choses sont liées. Ils ont une espèce de stratégie avec ce qu'on appelle une roadmap, donc un chemin de route, en fait, qui est tracé. Ils ont un plan. Et donc, mais ils le montrent publiquement. C'est-à-dire que leur plan, il n'est même pas secret. C'est-à-dire qu'on sait, il y a des étapes, des passeports numériques, les monnaies numériques, etc., etc. Il y a un certain nombre d'étapes. Donc, ils ne le cachent pas. Ils disent, c'est là qu'on va. Et il y a un certain nombre de personnes qui comprennent exactement ce que tu disais pour Linky, que Linky, en fait, c'était censé être pratique, bien, ça t'évitait d'aller dans ta cave ou dans ton jardin. Il y a eu quelqu'un qui allait faire les relevés, que ce serait plus sûr, plus... Et puis, en fait, ça fait plein de choses qui sont terrifiantes. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. On a quand même un gouvernement qui, pendant les deux dernières années, a essayé d'obtenir, contre toutes les règles, tous les principes, si tu veux, de séparation entre les pouvoirs, de séparation entre les impôts, de donner accès directement à toutes les données bancaires de tous les Français. Enfin, t'imagines, c'est même plus Big Brother is watching you. C'est-à-dire, ils savent quasiment quand tu tires la chasse d'eau, ils savent quand tu éteins la lumière de ta table de nuit, et ils voulaient savoir exactement ce qui se passait sur ton compte bancaire. Mais on n'est plus que des machines après. Puisqu'en fait, on a un gouvernement qui, connaissant toutes ces informations, va pouvoir nous envoyer des stimulus pour nous dire « c'est bien, vous avez bien agi », ou des petites sanctions pour nous dire « c'est mal, vous avez mal agi ». Je ne sais pas si les gens réalisent ça. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui se donne les moyens de savoir absolument tout ce que sont nos vies, avec toutes les conséquences que ça.
Ça va quasiment au-delà de 1984, en réalité.
Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Parce que 1984, c'était un roman. Nous, on est dans la réalité. Et c'est ça la grande différence.
Donc, malgré la fin que les gens connaîtront, il n'y aura pas d'échappatoire. Parce qu'on pourra même dire, on pourra toujours dire aux gens, oui, mais vous comprenez, certes, vous avez faim, mais mangez moins de 1500 calories ou 1000 calories, c'est ça, bon ça pour votre santé. Pas. Et là, les gens le diront, ah oui, c'est vrai.
Ça, ça ne marchera pas. Moi, je peux te dire, je passe de plus en plus de temps loin de Paris, dans ce qu'on appelle la France profonde. Et dans cette France profonde, les gens, ils sont prêts à tout. On leur dit, faites ça, donnez votre épaule, faites. Ils sont prêts à tout. Il n'y a qu'une seule chose qui leur posera un problème et qu'ils n'accepteront jamais, c'est la nourriture.
Mais comment on sait qu'ils n'accepteront pas?
Tu sais, déjà là, le fait de ne pas chauffer comme ils veulent, ça gronde. Les gens disent, mais attends, mais qui décide pour moi? Moi, j'ai un poêle à bois, j'ai un machin, je vais me chauffer. Et les gens lui diront, non, c'est dégueulasse pour ceux qui ont un chauffage électrique, tu dois aussi être à 19. C'est vrai que toi, tu as un truc qui te permet d'être à 25 sans utiliser l'électricité ou machin, mais non. Parce que la limite de 19, elle est vraie pour tout le monde, peu importe le moyen avec lequel tu peux chauffer ton chez-toi. Parce que ce serait injuste, sinon il y aurait des gens qui auraient le droit, parce qu'ils sont plus riches ou parce qu'ils sont mieux équipés ou machin, de chauffer plus. Et déjà, ça fait gronder les gens. Ils disent, mais attends, mais moi, je bosse comme un malade, j'ai fait des réserves de bois, j'ai fait... Et on va me dire quelle est la température que je dois avoir chez moi. Mais quand il va falloir dire aux gens, bah ouais, t'as des poules chez toi, bah maintenant, la moitié de tes œufs, il y a des camions qui vont venir les récupérer parce qu'il n'y a pas plus de raison. C'est pas parce que t'es malin et que t'as des poules dans ton jardin et des tomates que toi, tu puisses avoir des œufs tous les jours alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim en centre-ville. Et on sent que tout ça va se passer. On sent que tout ça peut se passer. Ça paraît aberrant, mais vraiment, même moi, le dire, je me dis, mais comment tu peux dire ça? Tu vois, je suis quelqu'un d'hyper rationnel, je suis vraiment un enfant du système, surdiplômé, j'ai bossé dans les plus grandes banques d'affaires, dans les plus grands cabinets de stratégie, j'étais proche des gens les plus influents du monde, mais proche, intimement proche. Et dans ce pays magique, merveilleux, beau qu'est la France, on est à la veille.
Ah justement, tiens, tu vas me dire quelque chose d'intéressant. Tu étais proche des décideurs. Quel a été ton point de bascule pour t'éloigner justement de ces décideurs?
Bah parce que un jour, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'être en permanence à chercher? Alors je vais raconter ça différemment pour que tout le monde comprenne. Un jour, on te raconte une histoire de ce pêcheur qui est au bord du lac Titicaca et tous les jours va pêcher deux poissons. Et un jour, quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu pêches que deux poissons? Parfois, tu pourrais avoir plus de poissons, tu pourrais en pêcher trois, quatre. Et l'autre lui dit, pourquoi? Bah, comme ça, tu pourrais les vendre. Pourquoi? Bah, parce qu'avec l'argent, tu pourrais acheter un petit moteur. Et puis, tu pourrais ainsi pêcher plus. Et puis, avec l'argent, tu pourrais avoir un apprenti. Et puis, à la fin, tu pourrais avoir une grande multinationale qui permet au monde entier de découvrir tes poissons. Et puis, bah, après, tu pourrais pêcher pour le plaisir. Et donc, tu vois, est-ce que tu as besoin de faire tellement de choses pour être heureux par rapport à ta vie, pour te réveiller le matin, etc. Et moi, j'étais comme beaucoup de gens dans cette espèce de course pour avoir plus de biens, pour avoir une plus grande maison, pour avoir un plus joli costume, pour avoir la serviette, la cravate de grande marque, pour voyager en business, puis pour voyager en première, puis avoir plein de miles, puis inviter ma famille dans les plus grands hôtels du monde. Mais en fait, c'est comme un espèce de truc qui n'est jamais plein. Tu veux toujours plus, tu veux une plus grosse voiture, tu veux un plus gros bateau, mais en réalité, tu sais qu'en permanence, tu peux tout perdre parce que tout ça est fragile et dépend du bon vouloir d'un certain nombre de personnes pour lesquelles tu es docile, pour lesquelles parfois tu travailles même alors que tu ne devrais pas travailler parce que tu as un bras cassé, parce que tu as ci, parce que tu as ça, parce que tu as un mort dans ta famille, mais il faut absolument aller à telle réunion et si tu n'y vas pas, ça peut avoir des conséquences. Et en réalité, tout ce qui est important dans ta vie n'a plus aucune importance parce que tu es en permanence à courir pour quelque chose qu'on t'explique qui est plus important. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est justement rechercher la vérité, rechercher une forme d'épanouissement pour toi et les gens qui te sont chers. Ça ne veut pas dire pas travailler. Je n'ai jamais travaillé autant, essayer de faire autant de choses, de construire autant de choses, mais il faut essayer d'être en adéquation avec soi-même, avec un certain nombre de valeurs. Et quand tu participes à des projets qui ne font que comment rendre les gens plus dociles, comment rendre les gens plus esclaves, comment leur faire accepter. Parce que, en fait, quand tu as un cerveau bien fait, tout ton travail, il vise à contrôler, à manipuler les gens, etc., etc. Il faut pas croire que ce qui se passe à la télé, où on se dit, mais tous ces journalistes sont corrompus, ça se passe parce qu'ils ont envie de faire plaisir au prince. Mais non, on leur donne des dossiers complets avec ce qu'il faut dire, pourquoi il faut le dire, comment il faut le dire. Peut-être des dizaines de personnes, comme moi j'ai pu être à une certaine époque, qui préparent ces gens-là, qui les conditionnent, qui dans les dîners en ville, dans le système, etc.
Parce que ton métier, c'était quoi exactement? Explique un peu ton métier au grand public. Là, on est 1100 personnes, elles veulent savoir.
Non, mais moi, j'ai fait plein de métiers. J'ai fait du conseil en stratégie, j'ai fait du lobbying, j'ai été
même à une époque directeur du Stade de France. Quoi, en gros, voilà.
Exactement, voilà. Exactement. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai appris plein de choses. Je n'ai jamais eu l'impression de faire des choses qui étaient négatives ou mal. Mais parfois, tu es un des petits rouages élémentaires de quelque chose qui va vers inéluctablement la crise dans laquelle on est. Et on reproche souvent aux Allemands, etc., en disant « mais moi, j'étais qu'un petit rouage d'une solution finale » ou « j'étais qu'un petit rouage de… » Mais moi, à un moment, je ne voulais pas être un rouage de ça. À un moment, j'ai eu envie, au contraire, d'être quelqu'un de différent. Et donc, je me suis lancé dans l'art contemporain. Mais c'était une gageure, parce que tu te rends compte que tout ce système-là, et donc j'ai ouvert une galerie d'art contemporain, etc., tout ce système-là est fait pour contrôler absolument tout. Quand tu dis tu t'intéresses aux artistes, et en fait, tu te rends compte que le système a décidé quels étaient les artistes qui devaient être audibles, qui devaient être acceptables, qui devaient être présentables, etc. Et ce n'est pas complotiste de dire ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme dans tous les secteurs, comme dans les médias, comme dans l'industrie, comme dans tous ces secteurs. Pourquoi est-ce qu'on a plein de problèmes aujourd'hui avec EDF ? Parce qu'on a décidé de déréguler. Et le Floch Prigent récemment a fait une allocution qui était très intéressante en disant pourquoi, alors que ça coûte 10 euros de créer un mégawattheure, pourquoi est-ce que c'est vendu 600 euros ? Parce qu'en fait, sur le chemin, il y a énormément de corruption, il y a énormément d'enrichissement personnel, et c'est tout ça qui est malsain. Mais on a eu ces discussions ensemble hors écran. Pour toi, c'est pareil, tu étais à très haut niveau dans la politique, et à un moment, tu t'es dit « mais c'est pas possible ». À un moment, alors, si tu veux, tu te réveilles et tu veux changer.
Bien sûr. Alors, j'ai une question de Robert Janssen. Avez-vous été menacé d'une manière ou d'une autre, Monsieur Scholler ?
Bah, j'étais passé sur TPMP, où j'ai pris une position qui a été qualifiée de pro-russe, et j'étais beaucoup menacé. Mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a eu des articles qui ont été écrits me ciblant personnellement, nommément, de façon très précise, ce qui étaient des articles diffamants et qui n'avaient pour seul objet, parce que c'est pas des médias qui sont très lus, mais qui avaient pour objet de me faire peur, me donner l'impression que socialement ça allait me détruire et me faire du mal. Effectivement, ça m'en a fait. Mais qu'est-ce que tu veux ? Enfin, c'est ma nature, ça a toujours été de me poser des questions, de remettre en cause l'ordre établi, etc. Je ne peux pas être différent. J'ai la chance de connaître, d'être ami avec toi, Mike, avec un certain nombre de personnes qui me donnent la parole. Bon, ben voilà, je vais essayer de dire ce qu'est ma petite part de vérité, avec, j'espère, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et une grande culture. C'est-à-dire que je tiens à dire que avant de m'exprimer sur toutes ces choses-là comme je le fais, c'est parce que j'ai énormément étudié ces choses-là. J'ai côtoyé, moi, j'ai voyagé partout dans le monde. J'étais sur tous les continents, je suis devenu ami partout avec des gens qui étaient importants. Quand j'ai participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, j'étais très ami avec la première ministre de la région du Cap, j'étais ami avec des gens de l'ANC de très haut niveau, des propriétaires de clubs de football, des stars du sport. Et je rencontre quotidiennement des gens extrêmement simples parce que tout m'intéresse en fait.
Et qu'est-ce que te disent ces gens extrêmement simples ?
Ben, ces gens extrêmement simples, d'abord, j'adore les écouter parce qu'effectivement, comme tu dis, ils ont beaucoup de choses à dire et ils commencent à comprendre, mais de façon très, très nette, qu'on est dans une impasse et dont on ne sortira pas malheureusement indemne sans un changement considérable de nos sociétés. Et c'est terrible parce qu'en fait, tout le monde arrive à la même conclusion qu'on va passer par un Great Reset. Et c'est abominable. Il y en a qui l'ont choisi et il y en a d'autres qui se disent que c'est le seul espoir. Mais tout le monde arrive à cette conclusion et c'est le côté machiavélique, et j'utilise à dessein le mot machiavélique, c'est qu'ils ont cornérisé toute la société dans une situation où chacun va rêver de cette espèce de même solution finale pour l'humanité en fait. C'est-à-dire que c'est plus à destination ou à l'encontre d'une religion, c'est vraiment à l'encontre d'une partie considérable de l'humanité que les choses en question sont en train d'être mises en place.
C'est-à-dire que voilà, ce sera la fin de la propriété individuelle et ce sera essentiellement la société de contrôle. D'ailleurs, le 21 novembre est voté l'identité numérique au sein du Parlement de Strasbourg. Voilà.
Exactement. Attends, je dois juste… Oui, c'est exactement ça.
Alors, j'imagine que Bertrand doit recharger son téléphone. Moi aussi, d'ailleurs.
Ouais, Non, mais j'ai bizarrement.
Ça fait presque 2 heures que nous sommes ensemble. Voilà, je le répète, hein, le 21 novembre. Et normalement, je serai à Strasbourg avec Virginie Joron parce que le 21 novembre est voté l'identité numérique au sein du Parlement. Et je vais vous faire une confidence, chers amis, c'est qu'il y aura très peu d'opposition à cette identité numérique. Et bon. Je ne sais même pas s'il y aura 10% d'opposition au Parlement à l'identité numérique. Donc, ça va passer. Alors, ça va passer dans un premier temps à Strasbourg. Et ensuite, ça doit être, ça doit passer au sein des parlements européens qui en font une loi organique au sein de leur propre Parlement européen, Parlement national. Alors, quand est-ce que ça se fera exactement? Bon, ça, on n'a pas encore la date, mais j'imagine que ça passera aussi comme lettre à la poste.
Ça y est, j'ai rebranché mon téléphone, je suis de retour. Mais oui, mais, voilà. Mais tu vois, par exemple, Mike, typiquement pour prendre ton exemple, mais tu pars, tu vas là-bas physiquement au Parlement européen, tu essaies de faire rencontrer les gens, tu t'intéresses aux différents sujets. Tout à l'heure, tu as insisté, quand moi je parlais des personnes âgées, tu as rappelé que les jeunes étaient aussi victimes de ça. Et les jeunes, cette espèce d'identité numérique, tous ces contrôles, etc., mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que quand tu es jeune, tu as besoin de beaucoup d'intimité, tu as besoin de beaucoup de confidentialité, tu as besoin d'être fou, tu as besoin de dire des bêtises, tu as besoin de faire des bêtises, tu as besoin d'essayer. Et on voit bien qu'un enfant qui n'a pas cette possibilité de chercher sans cesse quelles sont les limites, etc., il ne va pas avoir le même développement qu'un autre. Et dans une société où on abrutit les gens, où on les processe, on les inquiète, on leur fait peur, on leur dit « quoi que vous fassiez, on vous chopera », mais c'est terrible. Bientôt, on va apprendre que nos téléphones, parce que je te rappelle que quand tu utilises ton téléphone, il est capable de dire ta vitesse.
C'est vrai.
Tu sais ça.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui empêchera pas l'État, tout, hein. Qu'est-ce qui empêchera l'État demain d'arrêter de mettre les radars et de dire, quand tu rentres dans une voiture, de déclarer puisque quel est le conducteur, et que ce conducteur, il est un espèce de mouchard. Rien, rien du tout. Rien n'empêchera ça. C'est-à-dire que si tu peux demander aux banques de dire qu'est-ce que vous faites sur votre compte bancaire, qu'est-ce qui empêche de dire à quelle vitesse tu te déplaces avec ton téléphone?
Bien sûr, parce que là, on était quand même à deux doigts. Qui est une mesure, donc évidemment on n'a pas fait les gros titres des journaux télé, on était à deux doigts d'être contrôlé par Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, sur l'ensemble de nos transactions bancaires.
Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment des points qui sont importants. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire un truc et donner une mauvaise idée. Si vous imaginiez le nombre d'idées qu'ils ont, le nombre de dossiers qui sont prêts, presse-bouton, presse-bouton, presse-bouton. Vous savez, quand vous êtes un opérateur téléphonique dans un pays, pour presque tous les pays, une des choses qu'on vous demande, c'est d'enregistrer toutes les conversations. Ça ne veut pas dire que le gouvernement y accède. Il faut qu'un juge fasse la demande, etc., etc. Mais tout ça peut changer. Il y avait un certain nombre de choses où ça devait passer par un juge, et puis maintenant, ça ne passe plus par un juge. C'est-à-dire, et tout ça, on sent bien que ce sont des grosses et profondes mutations. Mais j'ai été assez négatif plusieurs fois sur les États-Unis. Mais je pense pas que les États-Unis, en tant que pays, aient un pays considérablement dangereux. Il y a un certain nombre de personnes qui tirent les ficelles et qui les tirent dans une mauvaise direction. Mais la société américaine, le système américain, a encore énormément de qualités considérables. C'est-à-dire qu'ils ont un système judiciaire qui est relativement solide, ils ont une Cour suprême qui est capable de prendre des décisions inattendues qui vont à l'encontre des menaces. Tout à l'heure, quelqu'un disait menace, la Cour suprême américaine a été extrêmement courageuse sur un grand nombre de décisions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils continuent à faire confiance au texte, si tu veux, de Lincoln, enfin au texte fondateur de la société américaine, de la constitution américaine. Et ça, c'est très, très important d'avoir en tête. C'est-à-dire que les États-Unis, de eux peuvent venir une solution très encourageante pour le monde, comme des choses catastrophiques. Parce qu'en fait, tu as énormément d'acteurs qui ont un pouvoir considérable aux États-Unis.
Alors, j'ai une question très, très intéressante pour le coup. Psycho 2.1, pourquoi en arriver à une société fliquée? Parce que ce n'est pas idiot ce qu'il dit. Parce que si justement on laissait une société, on va dire, libérale, que les gens arriveraient à gagner leur argent, qu'ils seraient heureux et contents, ça permettrait quand même aux élites aussi de s'enrichir encore plus. Donc, alors qu'une société fliquée où les gens seraient pauvres, est-ce qu'en effet nos élites arriveraient à s'enrichir comme elles le souhaitent?
Mais en fait, de tout temps, quand les gens ont le pouvoir, ils ont peur de le perdre. Et ils ont tous la certitude que pour conserver le pouvoir, il faut disposer du maximum d'informations et de moyens de coercition. Donc, pour avoir des informations, il faut avoir une société de contrôle, il faut disposer de fiches, il faut avoir le maximum d'informations. Et on voit bien, même en politique ou dans la presse, tu as plein de négociations. Tu as quelqu'un qui fait une connerie, et puis un autre avec qui se disputait, qui le contacte et qui lui dit « Tu sais, je suis au courant de la connerie que tu as faite. Donc, si tu veux pas que je dévoile le truc, maintenant, tu vas me rendre un peu... un truc sympathique, etc. etc. » Donc, non, la société, elle a cette habitude. Et justement, dans les démocraties, on crée des garde-fous. On crée des règles sur l'accès aux informations, la vie privée, etc. Et c'est ça qui est bafoué. En fait, le changement majeur du 11 septembre, le plus important changement majeur, c'était le Patriot Act aux États-Unis qui permettait officiellement à l'État américain de rentrer jusqu'à la plus grande intimité, alors avec un certain nombre de garde-fous, dans la vie des gens. Et depuis cette époque-là, toute la politique des États, mais de tous les pays quasiment, a été de prendre de plus en plus de liberté par rapport à nos libertés. Et on l'a vécu. On l'a vécu fondamentalement au cours des dernières années, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à quel point nos libertés étaient dans les mains d'un nombre très limité de personnes qui elles-mêmes s'affranchissaient des règles. On a vu, alors je ne vais pas donner d'exemple parce que comme tu dis, ce serait trop polémique, mais les gens savent bien, des faux certificats, des fêtes parallèles, des restaurants secrets, des machins, etc. Tout ça s'est passé au sommet des États en question et au sommet des compagnies qui nous vendaient leurs solutions miracles. Donc non, la volonté de fliquer, c'est la norme de toutes les dictatures, et depuis le 11 septembre, le camp du bien essaie d'être le camp de la dictature. Et par exemple, aux États-Unis, on a une Cour suprême qui fonctionne plutôt relativement bien, avec ses défauts comme toute organisation. Eh ben, le pouvoir en place aimerait vraiment changer en triplant le nombre de personnes. Ils veulent faire la même chose avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils trouvent qu'il devrait plus y avoir, il devrait y avoir plus de membres, mais plus de veto, etc., etc. Tout est fait pour contrôler de façon totale les individus et les groupements d'individus qui peuvent faire encore, qui peuvent nous donner un optimisme. Et sinon, on arrivera effectivement à ce que prévoit Clochard, vous ne posséderez plus rien, vous n'aurez plus aucun droit, vous n'aurez plus rien, mais vous pourrez regarder la télé gratos, vous pourrez ci, vous pourrez ça, vous pourrez manger, vous deviendrez comme des animaux sans avoir à vous préoccuper de quoi que ce soit, vous n'aurez plus d'administration à faire, vous ne choisirez plus qui vous ferez comme enfant ou si vous ferez des enfants, etc. Ce sera bienvenue à Gattaca en fait.
Malgré tout, un espoir ou pas?
Bien sûr, un espoir important parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est nous, le monde occidental, qui est en train d'être extrêmement cornérisé et isolé. Malgré tous les éléments de langage, tous les discours de notre président qui dit « la Russie s'isole », etc., c'est absolument l'inverse qui se passe. Chaque jour qui passe, plus de pays sont préoccupés par tout ça, comprennent tout ça. Mais après, ils n'ont pas forcément tous à leur tête des chefs d'État vaillants et courageux. Et on voit ce qui est en train de se passer au Brésil et on voit ce qui se passe partout. T'as une influence terrible d'autres pays extérieurs qui essayent de changer les gouvernements. Et dès qu'un président est courageux, ben, on essaie de le mettre en place. Donc, est-ce que Mélanie était courageuse ou pas? En tout cas, elle a été mise au pas. Pour l'instant, on a Orban, on a un certain nombre de chefs d'État. Est-ce que ce qu'ils disent est bien? La question n'est pas là. C'est est-ce qu'il y a des gens qui ont le courage de dire « non, cette politique ne me convient pas ?» Et c'est très important, en fait. Le non-alignement est la clé d'un monde sain. C'est la possibilité de contester même quelque chose qui paraît important et la base même de la liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté de parler, etc. Et on est dans une société où on essaie de nous dire « vous n'avez plus le loisir de penser, on pense pour vous ». Et une fois que tu n'as plus le droit de penser, parce qu'on te dit « ça c'est la vérité, arrêtez de réfléchir, ne faites pas d'enquête, n'écoutez pas ces gens-là », la censure, donc tu commences à empêcher les gens de parler, donc tu censures les chaînes de télé, etc. Et après, ça ne s'arrête plus en fait. Et le jour où les médias français ont laissé d'autres médias être censurés, ils se sont condamnés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, par construction, mais aussi à coup de centaines de millions d'euros, bah de dire ce qu'on leur demandait de dire. Et donc, tu rentres dans une espèce de paresse, de connivence qui va être destructrice, mais qui sera destructrice pour toi. Parce que si tu n'as pas su dire non, si tu n'as pas su continuer à réfléchir, si tu n'as pas su continuer à avoir un esprit critique parce que tu gagnais 30 ou 40 000 balles par mois, tu n'existes plus, tu n'es plus rien. Tu n'es qu'un consommateur qui peut avoir effectivement un steak premier choix, qui peut aller dans des bons restaurants, qui peut aller dans des bons hôtels, mais en réalité, tu n'es plus un être humain, tu n'es plus une personne parce que tu n'es plus en adéquation avec tout ce qui fait que nous, on est un homme ou une femme, hein, c'est qu'on est doué de cette espèce d'esprit critique. Il dit « je pense, donc je suis ». Je pense, donc je suis. Eh bien, on n'a plus le droit de penser, donc on n'a plus le droit d'être. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que cette société…
Le mot de la fin, ouais. On pense parce qu'on est, et visiblement, on ne nous laisse plus penser. Merci beaucoup, cher Bertrand. On a été 1000, là, on est fini à 1206 personnes. Merci vraiment pour ces 2 heures de live énormes. J'espère que vous avez appris plein de choses. Dimanche soir, je suis aussi présent sur Géopolitique Profonde avec Maître Divisio. On va aussi parler de ça, de passe énergétique. Merci beaucoup, cher Bertrand, pour d'avoir consacré ces 2 heures. Passe une excellente journée et puis soigne-toi bien aussi ton épaule, hein, parce qu'on a évidemment besoin de toi. Merci à vous tous. Allez, salut, ciao.